et regarder Dem en même temps.
Et bienvenue et bonjour tout le monde. Après un match de folie, un PSG Lille qui pose 10 000 questions, qui apporte bien sûr aucune réponse avec ce club, on ne sait plus quoi comprendre, quoi comment. On va essayer de commenter ça. Pour l'instant, je suis accompagné de Tonton. A priori, il y a Reco qui va arriver, il y a It qui devrait être là aussi. Bonjour tout le monde. Salut à toi Frédéric Winter, salut à toi Kenny, salut à toi Eve. Eve, petite pensée pour notre modo. Et on va attaquer direct. Donc on a eu 10 minutes où on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? On s'est joué en fait, on s'est joué. Bien évidemment, ces 10 minutes ne se sont pas poursuivies. Pour finalement, à partir de la 87e, retrouver le chemin, ne serait-ce que de la cage, et une fin de match de folie. Est-ce que c'est grave, docteur, de faire une prestation comme ça?
Ben moi je t'avoue que c'est pas le genre de prestation que j'aimais voir parce que cette équipe a été totalement sur courant alternatif. Il y a eu, comme tu l'as dit, un très bon début de match où moi-même je me suis posé des questions, je me suis dit ce PSG a l'impression d'avoir une réaction, ça marque très vite. Et ça à l'image du match aller contre Lille, j'ai l'impression que le score est très trompeur parce que on met rapidement les deux buts, mais tu vois au fil du match que Lille revient vraiment de plus en plus, pose de plus en plus de problèmes à ce PSG. Et au final, au moment où tu as le 3-2 pour Lille, bah, c'est pas immérité pour Lille parce que Lille fait le match qu'il faut pour le gagner. Et étrangement, je te dirais que ce PSG m'a fait penser au Real Madrid de Ligue des Champions. Pas impressionnant, qui se fait marcher dessus pendant une grande partie du match, mais qui se dit il y a 5 minutes où il faut tout donner à la fin. Et c'est dans ce laps de temps de la 85e jusqu'à la fin de temps additionnel où au final, le PSG réussit à avoir un score qui, bah, moi, j'estime pas mérité quand tu vois le contenu du match. Et même quand tu t'appuies sur le nombre de tirs des deux équipes et des intentions de jeu, bah, j'ai l'impression qu'on s'en sort énormément grâce à nos individualités, plus que par le plan de jeu proposé. Donc j'ai l'impression que Galtier perd encore tactiquement un match. Et j'ai envie de même rajouter une petite stat que Hitch avait bien soulignée lors du précédent match. On prend encore un but entre la 45e et la 60e. Je ne sais pas ce que dit Galtier dans les vestiaires à leurs joueurs, mais sont motivés en revenant.
Alors, on va enchaîner avec qui, justement, tu l'as lancé, la question qui était posée, c'est, bah ouais, tu commences bien le match, tu le finis bien, entre les deux, il n'y a rien. Comment est-ce que tu rationalises ça, toi, Hitch?
Moi, je tiens à dire déjà qu'on est tous heureux alors qu'on a gagné contre Lille. Déjà, c'est pour remettre un peu au niveau, on est tous heureux. Moi, j'ai regardé le match un peu dehors, donc j'ai vu des gens sauter, des gens être contents. On a battu Lille. On joue le Bayern dans deux semaines. Aujourd'hui, on a gagné sur un coup de pied arrêté, sur un exploit encore individuel. Je suis totalement d'accord avec Z. Au début, ça joue bien. On commence à se dire, oh, mais le PSG, ça respecte le football, c'est pas mal. Ney, Mbappé, ça combine. Les commentateurs nous sortent des stats en disant, oui, ben Ney, Neymar a laissé 17 passes décisives à Mbappé. Donc, c'est bien, ça nous met en confiance. Neymar se blesse, ça c'est la poisse Saint-Germain je pense. À partir de là du coup il n'y a plus de projection devant, on n'a plus ce joueur qui fait la liaison entre le milieu et l'attaque. On rentre un Ekitike qui est fantomatique encore une fois. Ekitike il sert à quoi dans cette équipe? En fait c'est même plus un joueur neutre, c'est un malus. Voilà. Tactiquement on se fait manger par Lille, ils ont beaucoup plus d'envie. Galtier, un coach qui montre sa frustration autant que Galtier qui
On va plus parler du coach après. Pour l'instant, on va se focaliser sur le jeu. On va parler de l'encadrement juste après.
Le jeu, il n'y a pas eu. Le PSG, on a un Messi qui, malgré qu'il marque un coup franc, il n'influe pas sur le jeu parce qu'il est statique. Donc il marque aujourd'hui, mais est-ce que ça sauve sa prestation? Je dirais que non. Et voilà, encore une fois, c'est un PSG qui s'est fait dominer dans le jeu, dans la tactique. Et je parlais juste de Galtier parce que on voit un PSG qui s'est fait dominer par la tactique, parce qu'on voit un Galtier qui est énervé, on voit un Campos qui est énervé, c'est une équipe qui, ils sont tous énervés. Il n'y a aucune sérénité à quasiment deux semaines d'affronter le Bayern.
Voilà. Et toi, Reco, du coup, au niveau du jeu, est-ce que tu as une lecture de ce match qui est quand même super étrange, quoi?
Ouais, bah déjà, salut tout le monde. Ouais, franchement, c'est quoi ce match? J'ai rien compris. J'ai rien compris à ce match. Mais en vrai, même quand on mène 2-0, faut regarder un peu le contenu. Il y avait pas grand-chose. Il y a eu quelques actions côté PSG qu'on a bien jouées. On était content de voir deux buts, de voir de belles actions avec Neymar. Mais en vrai, Donnarumma, il fait trois arrêts décisifs. Quand il y a 2-0, il y aurait pu avoir 2-0 pour Lille en vrai. Ça aurait pas été volé. Donc ouais, encore une fois, tu vois un PSG quand même fébrile. Quand tu vois la charnière, l'erreur de Kimpembe, il peut y avoir 1-0. Derrière, tu concèdes beaucoup d'occasions, tu prends encore un but dans le domaine aérien. Je crois que sur les 10 derniers, bah là maintenant ça doit faire 12 buts, 10-12 buts encaissés. Tu en as au moins 8 ou 9, c'est des centres, c'est aérien. Donc, à un moment donné, tu vois la fébrilité de la charnière. Ton meilleur défenseur, c'est Danilo. Il est ni aligné derrière, ni aligné au milieu. Au final, tu te fais bouffer au milieu. Et là où tu es le meilleur, comme d'habitude, c'est les transitions. En transition, en contre, on a été bon, on a fait les bonnes passes qu'il fallait. Et Mbappé, forcément, avec un Mbappé devant, tu peux marquer. Quand il n'est pas là, c'est compliqué. Ça change tout. On a vu aussi un meilleur Neymar avec un Mbappé, forcément. Messi transparent tout le match. Moi, je suis désolé. Il a beau marquer son coup franc. Je vois, il y a des commentaires. Oui, si c'est Messi. Non, Messi, non. OK, il met un super coup franc. Mais à un moment donné, on est quand même en droit d'attendre plus d'un Lionel Messi. Il fait 95 minutes transparente. Et surtout, même l'attitude. À un moment donné, il y a une contre-attaque de Lille dans les dernières minutes. Il laisse passer le joueur. Il s'arrête, il marche. C'est pas normal. Donc non, moi, franchement, pour moi, c'est quand même très inquiétant dans le jeu. Après, ce que j'aime quand même, c'est la mentalité. On n'a pas lâché, on est revenu. Et puis, ça peut être salvateur. Une victoire comme ça peut être salvateur, ça peut être le tournant d'une saison. Donc, ça peut-être être encourageant. Et surtout, bon, tu prends quand même 3 points alors que tu as failli en prendre 0. Maintenant, si ce résultat-là sauve les fesses de Messi, sauve les fesses de Galtier, sauve les fesses de Campos, ah, ça, franchement, ça ne me va pas parce que pour moi, c'est tactiquement, c'est beaucoup trop faible.
Ok, mais après, je vous trouve un tout petit peu dur sur les 10 premières minutes, parce que les 10 premières minutes, moi, j'ai même pas compris, j'ai pas reconnu le club. Par contre, il y a quelques stats qui perturbent. Il y a 0 but cadré entre la 17e et la 87e. On a 59% de balles réussies à la 65e. À la 65e minute, on a 59% de balles réussies, de passes réussies dans les 35 derniers mètres. Il y a vraiment des stats qui ont piqué. Et justement, sur les transitions, on était extrêmement faible. Justement entre la 17e et la fin du match. Mais comme tu l'as rappelé, Réco, et c'est une question, c'est est-ce que ce match, et je vais vous la poser, est-ce que ce match peut jouer comme un déclencheur? C'est-à-dire qu'on avait une équipe qui était apathique, on était tous en train de se dire, mais où est-ce qu'est la solution? Et là, tout à coup, il y a une fin de match de folie, où il se passe quelque chose, où on va chercher des réponses. Est-ce que toi, tonton, tu penses que ça peut nous réveiller et ça peut être un peu plus prometteur pour la suite?
Bah, je pense qu'en fait, en ce qui me concerne, ce match, il est très trompeur sur le score comme au match aller contre Lille, en fait. Et ouais. Je sais pas si tu peux t'appuyer là-dessus et dire c'est le match référence du PSG, ça va repartir. Parce que si ça, c'est un match référence, c'est quoi un match du PSG qui est pas bon?
Pas forcément match référence. Est-ce que dans l'énergie, il y a eu quelque chose de nouveau qui, pour toi, peut être prometteur? Ou tu penses pas, quoi?
Bah, j'ai eu l'impression, tu vois PSG-Bayern? Le PSG a tout donné à la fin. Et là, tu as tout donné au début, grande période de creux, et tu as tout donné à la fin. Moi, ça ne me rassure pas, en fait. Je ne me dis pas qu'il y a eu un déclic, qu'il y a eu un électrochoc, on n'a pas dominé dans le jeu. Lille a repris petit à petit le contrôle du match, et comme on dit, le score, on arrive à l'acquérir à la fin sur des exploits individuels plus que sur des performances collectives. Donc, non, pas satisfait. Je ne pense pas que ça augure de bonnes choses pour la suite. Et je sais déjà quelle va être ta prochaine question, donc je vais attendre que tu la poses pour y répondre. Mais
Je lance Rage dessus. À moins que, est-ce qu'il y en a un de vous deux, Hitch ou Rico, qui veut rajouter quelque chose sur peut-être un match déclic?
Bah non, mais forcément, ce genre de scénario, comme je disais, ça peut être salvateur. Mais dans le jeu, en tout cas, ça ne rassure pas. Mentalement, on peut se dire que ça peut toujours créer une dynamique. Parce que mine de rien, tu prends 3 points, tu reviens au score. T'as eu quand même la force de caractère, même les entrants. On a vu Warren qui a apporté de ouf, Danilo aussi. Il y avait Verratti qui était survolté aussi, qui a énormément couru. Il était carbo, mais il s'est quand même beaucoup donné. Donc voilà, on va dire que mentalement, ça peut créer quand même une dynamique positive. T'es pas éliminé face au Bayern. Là, tu prends 3 points. T'as un classico à jouer. Si tu gagnes le classico, ça peut te laisser rêver aussi en Ligue des Champions. Ça peut créer une dynamique. Maintenant, quand tu vois le jeu, quand tu vois que tu perds Nuno Mendes, tu vas probablement jouer avec Bernat contre Marseille, contre le Bayern. Voilà, quand tu vois le jeu et quand tu vois les blessés, c'est pas positif.
Ok, bon, bah, je vais lancer Hitch. Et la question, elle était, je l'avais mise dans le débrief dès le début. Hein, la question, c'est faut-il virer Galtier dès maintenant? mais ce match change peut-être les choses. Qu'est-ce que ta lecture sur cette réponse-là? Est-ce que pour toi, Hitch, il faut virer Galtier dès maintenant? Est-ce que c'est la réponse?
Alors, avant ce match-là, avant hier, je ne vais pas dire avant ce match-là, avant hier, j'aurais dit oui, il faut virer Galtier. Maintenant, moi, le Paris Saint-Germain gagne ce match. Tactiquement, Galtier est nul. Donc, si on le vire, encore une fois, je dis, on ne prendra pas la Ligue des Champions avec Galtier. 0 plus 0, c'est 0. On le vire ou pas, c'est pareil. Moi, je pense qu'il faudrait le virer. Maintenant, quand je dis avant hier, il fallait le virer, pourquoi hier, il s'est passé un truc très important. Le Bayern Munich a perdu. 3-2. A perdu 3-2 à 3-2. Aujourd'hui, 15h30, l'Union Berlin joue contre la Lanterne Rouge. Si l'Union Berlin gagne, le Bayern passe deuxième de son classement en Bundesliga. Le Bayern, on va rencontrer un Bayern, peut-être qu'ils vont être en crise. Parce que quand même, le Bayern Munich, c'est une institution. Là, ils perdent 3-2 hier contre Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach, c'est bien ça, la bête noire du Bayern. Ouais. La bête noire du Bayern.
Aujourd'hui, l'Union Berlin rencontre la Lanterne Rouge, logiquement, c'est une victoire. Donc, ça veut dire que si l'Union Berlin gagne, ils sont à 2 points du Bayern, on rencontre un Bayern qui est en crise. On peut, même nous, si on est en crise, on peut rester en crise avec un coach jusqu'au match du Bayern. Parce qu'on ne va pas affronter le meilleur Bayern. Encore une fois, le Paris Saint-Germain s'en sort bien parce qu'on tire, certes, une grosse équipe, mais le Bayern, à l'image du Paris Saint-Germain, eux aussi sont en crise. Il n'y a pas, pour moi, d'urgence à virer Galtier parce que tu rencontres une équipe également du Bayern qui, un, le match aller, ils ne font pas un top match, le Bayern. Le Bayern, ce n'est plus les méchants, c'était les gentils, c'était Bambi, c'est le premier match. Ils ont été super gentils avec nous. Donc là, on rencontre une équipe qui est en crise comme nous. Donc, je pense qu'il n'y a pas de nécessité à changer de coach. Je pense que le Paris Saint-Germain, à l'état actuel avec Galtier, ils ont le potentiel nécessaire pour battre cette équipe du Bayern, même à domicile. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec ce que je disais au début. Il faut virer Galtier, il faut virer Galtier, il faut virer Galtier. Mais là, le Bayern, il est en crise. Donc, autant affronter le Bayern dans 2 semaines avec le Galtier et voir après.
Je vais te lancer, tonton, sur la même question.
Bah, moi, en fait, j'ai répété quelque chose que j'ai déjà dit dans un débrief précédent, avec tout le respect que j'ai pour Christophe Galtier. Aujourd'hui, le PSG a pour objectif de gagner la Ligue des Champions, au même titre que le Bayern Munich, que Manchester City, que Liverpool, que le Real Madrid, le FC Barcelone, on va dire ces clubs du gratin européen. Est-ce que un de ces coachs aurait pensé à un moment de sa vie à recruter Christophe Galtier pour être le coach qui va faire gagner la Ligue des Champions? Et je le dis vraiment sans le moindre manque de respect. Et moi, je pense qu'à un moment, qu'est-ce que Galtier peut apporter de plus? Il vient de faire 3 défaites consécutives. Le dernier qui a réussi la performance, c'était Comboiré en 2011, avant Paul Le Guen en 2008. Je ne vais même pas lui faire l'honneur de comparer les effectifs à l'époque, parce que sinon, vous allez charger Galtier encore plus. Mais moi, je pense que Galtier est arrivé au mieux de ce qu'il a pu tenter au PSG. Il n'y est pas arrivé, c'est pas grave, ça peut arriver. Je pense que le PSG est juste la marche qui est trop haute pour lui. Et que, en fait, plus on le garde, plus on va le discréditer. Et même pour lui, en fait, pour la suite de sa carrière, hein, plus il reste, plus ça va être la crise pour lui. Et s'il reste jusqu'à la fin de saison, je pense que ça va partir tellement en autre boudin que les gens qui avaient une très très bonne estime de Galtier ne l'auront plus. Et que derrière, bah, même lui, en fait, il va galérer à trouver un club dans lequel il sera épanoui. Donc moi, je pense que là, je vais parler pour l'intérêt de tout le monde, je vais parler pour l'intérêt du PSG, bah, c'est pas satisfaisant. Pour l'intérêt de Galtier, bah, lui non plus, il n'y arrive plus, il se met même à s'énerver en conférence de presse et à perdre le contrôle, alors que c'est à la base quelqu'un qui maîtrise très bien les conférences de presse et la communication. Donc, je pense que Galtier est à bout, on ne lui rend pas service en le gardant. Tu as des coachs qui sont disponibles, qui sont libres, il y a des rumeurs. Bah, moi, je pense que le mieux dans l'intérêt de tout le monde, c'est de dire au revoir à Galtier, en fait. Pas casse-toi, hein, vraiment, hein, avec tout le respect. Au revoir, c'est compliqué pour toi, c'est compliqué pour nous, on s'est trompé, ça arrive, merci pour tout, au revoir.
Et pour toi, Rico, justement, du coup, il faut plus être raisonnable par rapport à un Bayern qui est malade et garder les acquis, ou il faut tout de suite trancher dans le bar et se séparer de Galtier?
Bah, moi, je suis plus partisan pour changer dès maintenant. J'aurais déjà changé même avant Lille, en fait, parce que là, plus t'attends et moins ça peut te servir. L'électrochoc, il aurait pu servir là contre Lille, il aurait pu servir avant Marseille. Plus t'attends et moins ça va servir, en fait. Maintenant, moi, je suis partisan pour dire très souvent que c'est pas la faute du coach, parce qu'on a changé tellement de fois et rien ne change à chaque fois qu'à un moment donné, il faut savoir se poser les bonnes questions. Je pense que ce n'est pas un souci de coach. Maintenant, il y a aussi des circonstances atténuantes qui font qu'il a quand même un effectif où il manque du monde. Les solutions qu'il a sur le banc, c'est quand même compliqué. Tu t'en remets à un Zaïre Emery 16 ans pour te changer un match, à des exploits individuels, à un Mbappé. S'il ne joue pas, tu es cuit. Donc, c'est quand même compliqué pour lui. Maintenant, moi, pourquoi je le changerais quand même malgré tout, c'est que je trouve que tactiquement, il est limité. Là où certains coachs, je trouvais qu'ils avaient quand même des idées, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui se dégageait, ils savaient trouver des solutions des fois, etc. Je trouve quand même que Galtier, comme l'a dit Tonton, la marche est peut-être un peu trop haute pour lui. Et ouais, je le trouve limité sur certains choix, je le trouve limité tactiquement. Donc voilà, en plus, il n'a pas vraiment une grande légitimité par rapport, par rapport aux joueurs que tu as. Donc ouais, c'est compliqué. Donc personnellement, je l'aurais changé avant Lille déjà. Et comme l'a dit Tonton, c'est pas forcément lui rendre service que de le garder non plus. Donc ouais, je l'aurais changé avant, mais maintenant, quand tu vois le match là, je pense qu'il sautera pas. Il sautait avant Marseille, est-ce que c'est une bonne chose? Avant le Bayern, non plus. Donc je pense qu'on va continuer avec lui et on verra ce que ça va donner. Mais bon, je pense qu'il fallait le faire sauter avant ce match contre Lille.
Ouais, un petit détail qu'on a vu. Je voulais juste y aller après très rapidement. Un petit détail qu'on a vu, c'est Campos qui s'agitait sur le banc de touche, et on avait l'impression, en tout cas ça a été remonté par pas mal de personnes, on avait l'impression que c'était lui qui donnait les consignes aux joueurs, et on avait un Galtier qui, comme d'habitude, était en train d'écrire dans son cahier. Il n'a vraiment pas une attitude rassurante et t'as pas l'impression qu'il a la main mise sur les choses qui se produisent. Je te laisse réagir et tu voulais réagir.
Juste rapidement, parce que je vois dans les commentaires beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas la faute du coach. Le coach, le PSG, c'est l'institution. Je tiens à rappeler, je l'ai dit la semaine dernière, quand on l'a rappelé en début de débrief, à quel moment tu es un coach? À quel moment tu es un coach? Tu te manges un but à la reprise de la mi-temps. Bayern, 53e. Aujourd'hui, 56e. On ne peut pas me dire que ce n'est pas la faute du coach quand tu te manges un but 10 minutes après ta causerie tactique. 10 minutes. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans les vestiaires? Est-ce qu'ils ont joué aux cartes dans les vestiaires? Comment tu peux dire? Parce que le but d'une causerie tactique, c'est de casser le rythme. C'est de dire aux joueurs le rythme qu'on a joué en première mi-temps, il n'est pas bon, il faut augmenter. Ou au contraire, vous avez été trop paniqué, calmez-vous, mais il faut changer ce rythme. Galtier, en quoi ça meurt d'homme? Tu te manges un but 10 minutes après sa causerie tactique. Il ne faut pas me dire le coach, le Paris Saint-Germain, c'est toujours pareil. Ça, c'est une stat qui est complètement accablante. Et je tiens à rappeler qu'on nous dit, ouais, c'est toujours le coach. Pochettino, on l'a énormément critiqué. Pochettino, quand même si on l'a critiqué, même si c'était un bouillon tactique, Pochettino, il gagnait ses matchs. Même si c'était dégueulasse. Et ça nous rendait fous. Ça nous rendait fous. Parce qu'on faisait des débriefs, on disait le Paris Saint-Germain a gagné 1-0, mais on ne comprenait rien à la tactique. Galtier, la tactique, elle n'est pas ouf, et en plus, on perd, ou on gagne dans la difficulté. Donc, il ne faut pas me dire que c'est toujours la faute du coach. On a clairement perdu en standing avec Galtier. C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, moi, comme j'ai dit, le Bayern, là, ils ne survolent pas leur championnat. Il faut arrêter de faire les fans du Bayern, ou avoir peur du Bayern.
Bon, on va parler après parce qu'il n'y a pas que le Bayern. Hein. Il y a le Bayern, mais il y a aussi Marseille, et on va revenir dessus. Juste pour Pochettino, parce que moi, ça m'énerve en fait quand on tacle. Juste regarder les matchs de Pochettino en Ligue des Champions, notamment regarder le match qu'on fait contre le Real, et prenez conscience qu'avec Tourelle, jamais on a aussi bien joué qu'avec Pochettino en Ligue des Champions, que la dernière fois qu'on avait fait un match cohérent en Ligue des Champions, vraiment cohérent, hein, pas qu'on passe contre Leipzig, parce que Leipzig était en dessous de tout, et contre l'Atalanta avec beaucoup de chance, un match qu'on gagne vraiment, bah, c'était Emery. Et entre Emery et Pochettino, il n'y a pas eu des grands trucs en Ligue des Champions, et depuis Pochettino, il n'y a pas eu de grands trucs en Ligue des Champions. Je sais que ce n'est pas populaire, mais revoyez les matchs et arrêtez de taper sur Pochettino, il n'est pas là depuis un an. Ça a été le mec qui a pris je ne sais pas combien de taquets dans la tête. On est peut-être en train de se rendre compte que ça ne vient pas que des entraîneurs. Et maintenant, je vais relancer les gens justement sur le futur. Ce match change un petit peu la donne. On était vraiment en train de s'inquiéter sur le podium. Est-ce qu'on s'inquiète toujours sur le podium? Il y a le podium, il y a Marseille qui va venir, on a Nantes, on a Marseille, on a le Bayern, on a trois matchs là qui sont des matchs qui, mine de rien, sont importants, avec un Nantes qui n'est pas si facile à manipuler, avec un Marseille qui va arriver avec les dents très longues, avec le Bayern sur lequel une partie de notre saison se joue, pour ne pas dire toute. Et justement, comment est-ce que tu vois tout ça, toi, Recoba? Comment est-ce que tu vois le futur immédiat du Paris Saint-Germain?
Ça va être important ce match contre Marseille, surtout parce que pour le titre déjà, parce que si tu perds, ça peut se compliquer derrière. Et surtout pour, on va dire, la dynamique positive, comme je dis après le Bayern, même si ce n'était pas exceptionnel, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de mieux. On avait retrouvé une solidité défensive. Dans les 20 dernières minutes, bah, on a posé des problèmes au Bayern, on a eu pas mal d'occasions, on a marqué. Bon, pour 1 cm, ça a été refusé. Il y a eu ces frappes de Messi sorties, il y a eu Vitinha aussi. Donc, il y avait quand même du mieux. Maintenant, ce match, il remet tout un peu en question parce que la fébrilité défensive, elle a fait peur ce soir, enfin cet après-midi. Tu as perdu ça. Au final, tu as quand même cette force de caractère pour revenir. Donc, on va dire en termes mental, c'est une bonne chose. Mais dans le jeu, ouais, dans le jeu, il n'y a rien. Donc, comment tu vas manœuvrer Marseille? Comment tu vas manœuvrer le Bayern?
Surtout
Comment tu vas
Marseille.
manœuvrer cette fin de saison avec le titre et tout? Franchement, je me pose des questions. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Les solutions que tu as sur le banc, tu en as quand même très très peu. Quand tu vois que tu comptes sur des Solaire, des Ekitike, des Zaher Emery pour faire la différence, voilà, c'est compliqué. Donc ouais, franchement, je sais pas quoi penser en fait. Je sais pas quoi penser là. Je navigue à vue. On va voir ce que ça va donner contre Marseille. Je pense qu'on aura des indications par rapport à ça, parce que ça, c'est une grosse équipe. Donc on va voir tactiquement ce que Galtier va proposer. On
Même
va
déjà
voir.
Nantes, hein, Réco. Nantes, ils sont pas si faciles que ça à jouer.
Nantes, c'est avant l'OM.
Mais il me semble, ouais.
Non, non, je crois que c'est
Ah non,
l'OM
je confonds.
le
Ah
week-end
pardon,
prochain.
excuse-moi. Excuse-moi
Ouais,
alors.
on a 1 semaine pour préparer. Donc on va voir. On a 1 semaine là pour préparer Marseille. En plus, tu vas avoir des joueurs en moins. On va voir ce que ça va donner. Mais si on fait un bon match contre Marseille, qu'on prend au moins le nul au Vélodrome, malheureusement, on est obligé de se contenter de ça aujourd'hui, c'est triste. Mais si tu fais un plutôt bon match et que tu arrives à prendre au moins un point au Vélodrome, tu peux te dire que voilà, tu as une chance d'aller chercher un titre et de pouvoir potentiellement te qualifier contre le Bayern. Mais si tu refais un match comme on l'a fait aujourd'hui, bah pour moi, on va dire au revoir au titre, on va dire au revoir au Classico, au revoir au Bayern, tout simplement.
Il faut même faire attention parce qu'il n'y a pas que le titre qui est en jeu, il y a aussi la deuxième place qui peut être en jeu parce qu'on a, faut pas
Oui, c'est
oublier
vrai, oui.
une équipe de Monaco qui revient avec les dents très longues. Est-ce que la disette de Lens va durer jusqu'à la fin de la saison? Est-ce que ce Lille ne peut pas relever la tête? Enfin, il n'y a pas que le titre qui peut être en jeu. Je vais te poser la même question, tonton. Comment est-ce que tu vois le futur immédiat du Paris Saint-Germain?
Bah, tu joues Marseille la semaine prochaine, qui est en grande forme et qui d'ailleurs a battu PSG récemment au Parc des Princes. Donc tu auras peut-être un ascendant
Au Vélodrome.
psychologique. J'ai dit au Parc des Princes? Ouais, excuse-moi, non, c'était au Vélodrome, je suis vraiment désolé. Non, justement, bah, il y aura cet ascendant psychologique de leur part, je pense, tu vois. Donc, à voir comment l'équipe réagit. Est-ce que Galtier sera encore le coach de cette équipe? Comment il va préparer ce match? De quelle manière il va préparer les joueurs, la tactique? Parce que bah, tout ça, c'est des choses qui vont être importantes. Parce qu'au match aller, enfin match aller, le match récent, en tout cas contre Marseille en Coupe de France, bah, on ne peut pas dire que Galtier l'a mangé Tudor tactiquement et que le score est chanceux pour Marseille. C'est ça le problème. Nantes, c'est une équipe qui vient de faire match nul contre la Juve aussi, on le rappelle, en Italie. Donc le calendrier n'est pas facile. Moi, je me pose des questions sur. Bah, du coup, Galtier qui nous a fait l'interview il n'y a pas longtemps, nous disant que bah, d'un côté, si Messi, Mbappé, ils marquent en fin de match, même s'ils ne font pas un bon match et qu'ils te font gagner le match, tu ne peux pas leur reprocher. Bon, bah, écoute, si on repart sur la même tactique, on va réessayer contre Marseille, on va réessayer contre Nantes, on va réessayer contre le Bayern, ça n'a pas marché, mais on va réessayer de la même manière. Tu le sens bien?
Ah non, non, moi je le sens pas bien du tout. Après, ce match-là, il met des doutes, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a un peu une révolte de joueurs. Moi, ma lecture, c'est les 10 premières minutes, c'est les joueurs qui sont venus super avec une volonté de faire, et que comme il n'y avait pas de tactique d'automatisme qui était mis en place, et ben ça s'est écroulé. Parce que, enfin, essayer de rationaliser pourquoi est-ce que pendant 10 minutes tu joues bien et que tout à coup tu t'écroules, il y a un moment, il faut qu'il y ait des raisons, quoi. Il faut essayer de les comprendre. Et une fin de match de folie où il y a les joueurs qui reprennent le pouvoir, où ça commence à être un petit peu le bordel tactique, donc ça te met un petit peu en doute par rapport à tes certitudes en mode tout va s'écrouler. Mais mes certitudes, tout va s'écrouler, restent encore un petit peu solides à titre perso. Toi, Hitch, comment est-ce que tu vois le futur proche? Au-delà, justement, au-delà du Bayern, Marseille, Nantes et le Bayern, il y a beaucoup de la saison qui va jouer, en fait, sur ces 2 semaines. Beaucoup de la saison qui va jouer.
Déjà, c'est clair que toute la saison se joue. Le mois de février, c'est peut-être le mois le plus important du Paris Saint-Germain. Pour le moment, le Paris Saint-Germain est passé complètement à côté. C'est peu de le dire. Après, y a un célèbre film qui dit l'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. donc la haine. Donc au final, tu peux encore sauver ce mois de février là. Il faut gagner, il faut battre Marseille, il faut battre le Bayern. Maintenant, le problème, c'est que Galtier a affronté le Bayern, a affronté Marseille. Sur les deux matchs, il a perdu tactiquement. Et je pense que même le match contre Marseille, c'était le match où, où il a le plus perdu tactiquement. Parce que, n'en déplaise à certains fans du Bayern ou quoi que ce soit, je pense que contre Marseille, le match était beaucoup plus compliqué que contre, le Bayern, parce qu'il y avait plus d'intensité physique. Là, bis repetita, tu vas les affronter au Vélodrome. Il faudra les battre. C'est l'équipe de Marseille qui est plus ou moins en confiance, même si les derniers matchs, ils n'ont pas été fous. Ils sont plus ou moins en confiance. Ils ont battu Paris. Donc pour eux, ça match. Maintenant, il faudra les battre. C'est une équipe qui, sur le papier, encore une fois, ils sont moins bien que nous. Il faudra que Galtier nous prouve son amour pour le Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire. Et son attachement pour aller battre son équipe de cœur. Son équipe de cœur qui est Marseille. Et Marseille, c'est une équipe également qui. On sait comment ils vont jouer contre nous, on sait qu'il y aura énormément de dépenses physiques, on sait qu'ils vont jouer l'attaque et ils vont se découvrir. Et là, cette fois-ci, par contre, on aura Mbappé cette fois-ci. Ce ne sera pas facile pour eux. Parce qu'en contre-attaque, ça peut aller vite. Donc il faudra bien jouer les contres. Contre le Bayern, pareil. Il faudra également négocier les contres. Il faudra peut-être plus garder le ballon contre le Bayern que contre Marseille, qui a vraiment eu vraiment un jeu plus direct. Mais dans les deux cas, ces matchs-là, ils sont super importants. Parce que Galtier, c'est simple. Il loupe Marseille ou il loupe le Paris Saint-Germain. Ou il loupe Marseille. Il bat le Bayern. Il bat le Bayern. Il loupe Marseille. Il saute. C'est simple. Hein, il saute. Ça veut dire dans la configuration, s'il ne gagne pas les deux matchs, il saute. S'il gagne un match, il perd les deux. C'est naturel.
S'il fait nul contre Marseille et qu'il bat le Bayern, il sauve, je pense. Il peut se permettre un nul contre Marseille parce que justement, il laisse le rival en distance. Mais ouais, il faut qu'il batte le Bayern,
ça c'est sûr. Mais même un nul contre Marseille, si jamais il y a 2-0 pour Paris, et là, le même scénario, il y a 2-2, il n'y a pas Paris qui prend la fin du match, ça veut dire que nous, c'est nous qui nous mangeons la clim. Galtier peut sauter. Voilà. Mais dans les deux cas, il faut que tactiquement, Galtier survole. Ces deux prochains matchs. C'est comme un peu un bachelier qui n'a pas étudié toute l'année et qui a le bac dans une semaine. Voilà, donc il doit tout rattraper le programme. Donc là, il a un peu la pression.
Le problème, c'est qu'il a déjà eu des épreuves et que les épreuves qu'il a passées, pour l'instant, il s'est fait 0 du 0 sur 1. Donc ouais, en fait, c'est comme, pour reprendre ton allégorie, c'est comme si tout à coup, il y avait des gros coef et là, il fallait qu'il rattrape tous les 0 sur 1 qui s'étaient.
Il a eu 0 en philo, il a eu 4 en EPS, il a eu partout, et là, il y a les maths qui arrivent.
Non, mais Hitch, c'est exactement, regarde, Hitch, on va se parler de bac pro à bac pro. C'est le mec qui foire tous les CCF, et le mec, il va arriver au talent, il va réussir sur le coefficient 8, et après, on va dire, c'est bon, sa saison est sauvée. Non, c'est
trop quand tu m'as dit, on va parler de bac pro à bac pro, j'en ai eu des briefs. C'est la plus dégradante. Hein, bon, ok. On parlait de bac pro, mais c'est ça. Maintenant, c'est ça. À la base, il y avait un mois de février qu'il aurait pu préparer tranquille. Maintenant, il doit le sauver en une semaine. Donc, il va rusher, il va être cerné, il ne va pas dormir, il va être un peu énervé, il va attaquer des journalistes, mais c'est comme ça, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, ou il sauve sa saison, ou du coup, il floppe totalement. Bayard Coefuite.
Alors juste pour Marseille vont pas pouvoir jouer comme à l'aller. Hein. Clairement pas, parce que effectivement l'absence de Mbappé va les obliger à couvrir beaucoup mieux leur dos. Mais il faut se méfier de cette équipe parce qu'ils ont une vraie intelligence tactique. Tudor qui a été détesté au début, a priori il sait ce qu'il fait. Et il saura trouver les bonnes adaptations. Et eux n'ont rien à perdre. Eux n'ont rien à perdre et nous on a beaucoup à perdre, donc si jamais on joue avec ne serait-ce qu'un tout petit peu la peur dans le ventre, ils vont nous cueillir à froid et ça va faire très 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 très
mais
mal.
Par contre, pour le coup personnellement, si on fait le même match que le dernier match contre Marseille, il y a des chances qu'on le gagne avec Mbappé, hein, parce que Marseille a fait un bon match certes, mais il y avait énormément de boulevard derrière.
Ouais, mais il est laissé,
on n'avait aucun joueur pour prendre les espaces, donc avec un Mbappé, t'as de grandes chances quand même de planter des pions. Il y avait vraiment énormément d'espace dans la défense.
Mais ils les laisseront pas. Ils s'adapteront tactiquement.
Ah bah, s'ils arrivent à s'adapter, oui. Par contre, s'ils font le même match et qu'ils laissent autant d'espace, clairement, on gagne. Hein.
Je pense que Tudor, il s'adapte tactiquement. Ben justement, je vais te lancer, toi, Réco, sur une stat. Neymar, qui est là depuis sa 5e ou sa 6e saison, à chaque fois, j'ai un petit doute.
6e.
Cinquième, ouais. Bah, il en est à sa 24e blessure. Donc ça fait une moyenne de 4,25 par match, 4,25 par saison, quelque chose comme ça. Ou non, non, non. 4,25. Qu'est-ce que tu en penses, Rico, de cette stat?
Bah, c'est, je ne sais plus quoi en penser de ça. Moi, c'est un joueur que j'apprécie, Neymar, mais malheureusement, il n'est pas fiable. Il rate 50% des matchs depuis qu'il est au PSG.
Bon, les matchs importants.
Ouais, dont surtout les matchs importants. Malheureusement, cet épisode, on l'a déjà vu 150 fois, de Neymar blessé en février ou en mars, qui rate les huitièmes ou les quarts. C'est ça chaque saison. Alors certains vont dire que ce n'est pas l'hygiène de vie, parce qu'effectivement, c'est la cheville, c'est la boucherie à chaque fois, il prend des sales tacles. Je suis d'accord. Mais l'hygiène de vie, il fait quand même quelque chose. C'est comme ça, les gars. Si tu dors bien, si tu te remets plus facilement de tes blessures, si tu dors bien, tu manges bien. C'est tout. Et ton corps est moins fragile et plus costaud. Est-ce qu'il a déjà fait les efforts pour remuscler, on va dire, son corps pour ne plus avoir ce genre de blessure? Est-ce qu'il a fait le nécessaire de son côté? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc oui, c'est pas de sa faute très souvent, vu les blessures qu'il a et vu les coups qu'il prend. Mais forcément que l'hygiène de vie, il fait quand même un petit peu quelque chose. Ce n'est pas 100% ça, mais ça en fait partie. Pourquoi Mbappé aujourd'hui, il revient toujours plus vite de blessure? Et là, en revenant plus tôt, il fait 90 minutes à haute intensité. Parce que l'hygiène de vie, il est irréprochable là-dessus. Voilà, c'est la vérité. Est-ce que Neymar a déjà fait les efforts vraiment pour revenir à 100% de son physique, pour muscler, on va dire, les parties de son corps qu'il a besoin, qui sont plus fragiles? Je ne sais pas, je ne pense pas, sérieux, je ne pense pas. Maintenant, pour moi, l'hygiène de vie, forcément, il fait quand même quelque chose. Voilà, ça ne fait pas tout. C'est pas que ça, mais pour moi, ça en fait partie quand même. C'est indéniable.
Le truc, c'est que quand ça se produit aussi souvent, statistiquement, voilà, c'est de l'hygiène de vie.
C'est un hasard à un moment donné.
Et toi, tonton, mais justement, ce ratio de blessure dans les grands matchs et sa situation contractuelle, ça t'inspire quoi?
Bah, très honnêtement, Rico, il a dit quand même pas mal de choses intéressantes. Moi, c'est un joueur pareil, hein, quand il signe au PSG, à la base, je saute au plafond. C'est le football qu'on aime, surtout quand il joue en deux touches de balle et qu'il a sa créativité maximum. C'est un joueur qui vraiment peut faire rêver comme rarement. Seulement, le problème, c'est que j'ai l'impression que ce joueur-là, on a eu du mal à le signer. Il a beaucoup de problèmes. Et je ne dis pas, hein, tout n'est pas de son fait ni de sa faute. Tu vois, par exemple, comme l'a dit Rico, là, il tombe sur sa cheville se plie. Ouais, j'entends que les blessures sont parfois pas toutes de son fait, mais je rejoins Rico également sur... Alors moi, je ne vais pas dire hygiène de vie, parce que quand je dis hygiène de vie, ça peut englober tout et n'importe quoi, et du coup, des gens vont commencer à déformer ce que je dis. Donc là, je vais parler très sérieusement, je vais dire les choses que je reproche. Là,
on parle de... Ce que tu fais avec le Nivea, tonton, ne nous concerne pas.
Hein, non. Le repos, je veux dire, les gars, allez à la salle de sport, demandez à votre coach de sport, le premier truc qu'il vous dit, c'est vous pouvez soulever des haltères autant que vous voulez, si vous ne vous récupérez pas correctement, ça ne sert à rien. Et je veux dire, à un moment, pourquoi Mbappé, il a eu sa blessure contre Montpellier? Il a fait combien de milliers de kilomètres en avion en moins d'un mois, Mbappé, avant de faire sa blessure? Parce que Mbappé, c'est pareil, il s'est fait une blessure contre Montpellier. Pourquoi? Pas de temps de repos. Donc, à un moment, il le paye. Et Neymar, bah, écoute, peu de temps de repos, rechute. Et je te dis pas en mode, s'il avait bien dormi, il se serait pas du tout blessé, là, tu vois. Mais les rechutes musculaires, c'est quand même pas mal favorisé par le repos et... À un moment,
si tu parles de Mbappé, il y a une très grande différence entre les deux joueurs. C'est que
bien sûr,
t'as Mbappé, si tu veux, qui effectivement une blessure, et t'as raison là-dessus. Il avait fait trop
de déplacements. Ah non, mais là je te cible.
Il revient en 9 jours. Les seules fois où on voit Neymar revenir aussi vite, c'est quand il y a une Coupe du Monde.
Mais derrière, justement, c'est ce que je te dis. C'est en fait, moi, quand je prends l'exemple d'Mbappé, c'est pour montrer qu'au final, ça peut pas arriver qu'à Neymar. Regarde, Mbappé qui a une hygiène de vie irréprochable, pas assez de repos. Blessure. Donc au final, ça arrive à tout le monde. Donc quand t'es Neymar en plus et que t'as un tel palmarès de blessures, parce que pour le coup, c'est pas comme si c'est nouveau et que c'est la première de Neymar. Là, tu viens de m'apprendre la 24e. On parlera de Nuno Mendes aussi qui commence à les collectionner.
On va en parler juste après. J'ai vu au niveau du chat et je vais réagir. Il y a pas mal de joueurs. On va parler des Tiki-Tiki, de Nuno Mendes et d'Hakimi.
Mais même Verratti aussi, qui est pas mal niveau blessure. Mais à un moment, le repos, ça joue. Et je pense que, tu vois, je vais pas commencer à dire, ouais, Neymar, il était au McDo. On n'a aucune preuve qu'il a mangé là-bas, d'ailleurs. On l'a juste vu en photo. Mais le temps de repos, ça joue. Tu peux pas te permettre d'avoir un rythme de vie d'étudiant en fac, en fait, le jeudi soir, à un moment. Donc, à un moment, c'est repose-toi. Repose-toi, frère, c'est tranquille. Et tu verras que peut-être, tu auras moins de blessures. Peut-être.
Et tu voulais réagir sur Neymar? Et sinon, après, tu peux enchaîner sur Ekitike. Parce
Ok,
que ça en parle pas mal dans les commentaires et on va parler un petit peu d'Ekitike après.
Ok, ça marche. Je vais être court sur Neymar. Ben, Neymar, en fait, il se blesse encore. Voilà, Neymar, au bout d'un moment, avec le Paris Saint-Germain, le PSG, les supporters du Paris Saint-Germain, ils sont arrivés en mode où, au bout d'un moment, Neymar, c'était une victime. Il se blessait, il se blessait, il se blessait. Mais le problème, c'est que ça a tellement été une victime qu'au final, le Paris Saint-Germain, ils sont passés de sauveur à bourreau. Voilà. Donc au final, quand quelqu'un se blesse à chaque fois, oh le pauvre, oh, c'est toujours les marrants, oh, pourquoi ils sont si durs, etc. Et quand ça arrive chaque saison, il loupe des matchs clés, au bout d'un moment, le sauveur, il devient bourreau. On se dit, bah voilà, il se blesse, mais hygiéniquement, il fait quoi? Est-ce qu'il dort le soir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc c'est totalement normal, et ça, Neymar doit le comprendre. Donc voilà, Neymar se blesse. C'est dû à pas de chance, déjà. C'est dû également à une hygiène de vie. C'est dû également à pas mal de choses. Donc voilà, là, on peut rien changer. Le seul plus-value dans l'avantage, enfin, le mal dans le bien, c'est peut-être que ça va peut-être libérer Messi, parce que Neymar et Messi occupent un poste un peu comme Messi, un peu électron libre. Parfois, ils se marchent dessus. Donc peut-être que ça permettra peut-être à Messi de plus apparaître dans les matchs. Voilà.
Et très rapidement, le mal dans le mal, c'est quand même qu'il a un contrat locked sur 2-5 ans et qu'il sera impossible à vendre. Je te laisse continuer sur Ekitike.
Voilà. C'est un très bon argument. Alors, Ekitike, bah, voilà, Ekitike, j'ai toujours dit, chaque débrief, c'est le stagiaire d'entreprise. Il est là, il vient, on ne sait pas, il sert à quoi. Il fait un peu de travail fictif. Il est là, il court, il fait des passements de jambes dans le vent. On dirait qu'il essaie de remplir sa chaîne YouTube. Et c'est terrible. Et moi, j'ai une pensée pour un compte sur Twitter, un compte fan d'Ekitike. Donc, allez lui donner de l'amour, parce que qu'est-ce que tu veux mettre comme stat? Hein? Et Kitiki, il est là, il a mis. Qu'est-ce que tu veux mettre comme stat? Les stats de Kitiki aujourd'hui, c'est qu'il a pris 10 minutes à mettre ses lacets, il a pris 5 minutes à mettre son chasuble pour rentrer, il s'est un peu échauffé, et dans le match, rien, zéro. Voilà. En fait, c'est lui, et même Fabien Ruiz, hein, Fabien Ruiz, je le critiquais énormément, mais quand même, la première mi-temps,
Dix
c'est un joueur
premières.
qui a gagné le plus de duels. Donc bon, il n'a pas été aussi. Voilà. Mais le duo Doliprane Solaire et Kitike, c'est vraiment la mafia des joueurs invisibles. Ils ont un talent, c'est qu'ils n'apportent pas. Ils n'apportent pas. Et même quand ils essayent d'élever leur club football, ça ne marche pas. À un moment, Kitike, il se dit, bah, peut-être que dans sa tête, Neymar est sorti, il le remplace en termes de talent. On lui fait une passe, il laisse la passe filer. Bam, contre-attaque. C'est terrible. C'est terrible. Et Kitike, c'est terrible. Enfin, il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. On l'a payé 40 millions. Là, la seule solution, c'est ou on le vend ou on le prête. Mais il ne peut pas rester pour le moment. Voilà. Après, je pense que il avait pas à terme de autant jouer au Paris Saint-Germain quand il est venu. Là, avec les blessures, tactiquement, c'est pas ouf. Il joue beaucoup plus que c'était prévu, mais je pense que de base, il ne devait pas autant jouer.
Là-dessus, il se plaignait beaucoup quand il jouait pas. Hein. Il se
Oui,
plaignait beaucoup.
mais c'est ça. Mais même dans le vestiaire, je vois des sources journalistiques, bon, je ne sais pas si c'est la véracité ou pas, mais les sources de l'équipe, etc., qui dit qu'apparemment il a un melon, apparemment les joueurs trouvent qu'il a un melon. Et c'est grave d'avoir un melon quand t'es nul. Pour moi, un mec qui a un melon quand il est nul, il y en a un, hein, c'est Hercule Satan dans Dragon Ball. Il est grave, il a un melon. Voilà, donc Ekitike, c'est pareil.
Est-ce que tu serais aussi dur avec l'étiquette Récotant?
Oui, totalement. J'étais partisan pour laisser du temps, j'étais partisan pour voir, parce que voilà, c'est un jeune joueur, il faut quand même qu'il ait du temps de jeu, etc. Il n'en avait pas beaucoup en plus sur, on va dire, les premiers mois, mais là, ça fait un petit moment maintenant qu'il a enchaîné plusieurs matchs titulaires, qu'il rentre aussi, qu'il a du temps de jeu. Mais je pense tout simplement qu'il n'a pas le niveau PSG, et il n'a même pas, j'ai vu un commentaire passer, je suis complètement d'accord, il n'a même pas le niveau de Reims. Aujourd'hui, quand tu vois l'équipe de Reims, il n'a pas sa place titulaire. Quand tu vois Balogun, même Maolida, qui a été recruté là, tu vois les joueurs de côté, il a pas sa place et qui tiquait à Reims. Donc, ouais, non, mais c'est moi, comme j'ai dit sur Twitter, j'ai rarement vu un joueur aussi mauvais au PSG depuis un petit moment. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je ne vois rien de bon là, en fait, sur ce qu'il fait. Les contrôles de balle, c'est toujours à 15 km. La conduite de balle, vous avez vu à un moment donné, quand il a un boulevard, la conduite de balle, il s'arrête, tu ne comprends pas ce qu'il fait. Les remises, elles ne sont jamais bonnes. Donc, à un moment donné, ça manque de calcium physiquement. Donc non, vraiment, non, et pour moi, Ekitike n'a pas le niveau PSG, n'a même pas le niveau de Reims, comme j'ai vu passer. Et à un moment donné, bah, il faut le vendre, tout simplement. Même pas le prêter, parce que je ne vois pas vraiment vraiment de potentiel en vrai de vrai maintenant. Donc non, et puis ouais, non,
En
il faut
soi,
le vendre.
il a un potentiel, mais la question c'est est-ce qu'il a un potentiel pour nous, pour jouer au Paris Saint-Germain? Et
Non.
c'est là où le bas blesse en fait. Mais je vais te laisser tonton et après bah, tu enchaîneras justement avec deux joueurs du milieu. à savoir Marco Verratti qui fait peut-être son mois le plus questionnable, et Warren Zaïre-Emery qui, encore une fois, amène du positif. Je te laisse commencer, Tonton.
Bah, pour commencer, sur Ekitike, c'est un joueur qui a moins de 20 ans, qui est arrivé en prêt avec option d'achat qu'on paiera l'été prochain. Ben moi j'ai m'amusé à le faire, j'ai posé la question aux personnes présentes ici et dans le chat, vous allez voir les réponses, ça va aller très très vite. Je vais vous poser une question, vous allez voir, vous, normalement dans ta tête t'aimerais donner 15 réponses mais tu pourras pas. Combien de joueurs, alors justement je fais une référence à un ami à moi qui s'appelle Nas parce qu'on avait le débat à deux la dernière fois, combien de joueurs ont progressé au PSG à part Mbappé depuis 2017? C'est parti les mecs.
Nuno Mendes.
Voilà, vas-y, un MP. Autre.
Non, c'est tout.
Non, à part Mbappé, voilà. Tu as cité Nuno Mendes.
Danilo Zaïre-Emery.
Danilo progressé, ouais, à la limite. Ouais,
Danilo,
ouais,
il était déjà bon, Danilo. Bon,
il était déjà bon, ouais, il était déjà
Hakimi,
bon.
Hakimi, cette saison.
Progresser par rapport à ce qu'il était à l'Inter.
C'est marrant qu'il a fait progresser à Hakimi, pas le PSG. Non,
par rapport à ce qu'il était à Paris l'année dernière.
Donc, maintenant que tu as répondu à cette question, le problème vient-il plutôt d'Ekitike ou le fait qu'au PSG, on utilise mal les joueurs et qu'on les développe très mal? Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième partie. Je pense qu'Ekitike, c'est un très jeune joueur, il n'a même pas 20 ans. On en parle comme un mec qui a 32 ans et qui a fait 17 années de carrière moisie. Je pense que pour moi, je suis d'accord avec Hitch, pas le niveau pour être au PSG tout de suite, mais à un moment, il faudrait peut-être le prêter dans un club qui sait faire progresser les jeunes joueurs et qui sait les développer. Parce que recruter Kitike sur la base de « il est grand, il va servir de pivot », alors que quand tu le regardes à Reims, c'est un faux neuf, bah, les mecs, à un moment, il faut savoir utiliser nos joueurs. Hein. C'est comme recruter Carlos Soler qui joue dans un milieu à 3, aujourd'hui on fait jouer piston droit dans une défense à 3. À un moment, moi je veux bien que les joueurs ne soient pas au niveau sur la pelouse, mais à un moment, il faudrait peut-être les utiliser correctement. Je pense que Kitike, il faut l'envoyer en prêt dans un club où il progressera. Et à ce moment-là, on pourra se tirer des conclusions d'ici un an ou deux. Et on verra à ce moment-là. Mais là, si tu me demandes aujourd'hui, ouais, encore aujourd'hui, il n'est pas au niveau et c'est compliqué pour Ekitike, ouais.
Et donc sur les deux milieux.
Donc sur les deux milieux, donc c'était Soler et Zaïre-Emery, tu m'as demandé.
Non, c'était Verratti et Zaïre-Emery.
Verratti, match un peu en montagne russe. Il commence très très bien. Puis sur le deuxième but, il remonte le ballon qui amène l'action.
Ouais, ouais.
Qui amène le
but, après, il est assez invisible.
Justement, j'allais dire. Justement, c'est pour ça que je te dis montagne russe, parce qu'il commence bien, il redescend, et à la fin, je sais pas, genre au moment où genre moi je me suis dit, il n'est pas dans son match, ce serait bien qu'il sorte, il se réveille, il commence à faire des projections, à se proposer vers l'avant, à porter le ballon. Donc, comme je dis, mon match en montagne russe, dans le sens où il a alterné le bon, le vraiment pas bon, et il est vraiment remonté en fin de match. Donc très frustrant, mais à l'image de pas mal de joueurs de cette équipe, et même à l'image du PSG, en fait, Verratti aujourd'hui. Et Zaïre-Emery, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Il commence à être un rentrant presque habituel dans ce PSG. J'aime beaucoup sa manière de se projeter, de se proposer vers l'avant, de gagner des mètres avec le ballon. J'aime aussi beaucoup le fait que malgré son très jeune âge, tu ne bouges pas facilement. Physiquement, il tient sur ses jambes, jambes de cheval, comme on aimait bien dire. Si tu arrives à le faire tomber, c'est que tu es par terre toi aussi. C'est quand même assez hallucinant. Donc non, vraiment, Zaïre-Emery fait des entrées intéressantes.
Du coup, comment t'expliques que Zaïre-Emery, 16 ans, ça marche bien, il fait des bonnes rentrées et on voit le potentiel. Et même Vitinha d'ailleurs, qui fait souvent des mauvais matchs et tout, mais tu vois quand même le potentiel. Mais Ekitike...
Parce que mieux utilisé, parce que Zaïre-Emery regarde le seul match où on n'est pas satisfait.
Emery, il est
utilisé, il est baladé partout.
Ailier de quoi? Attends, il a joué contre le Bayern en milieu droit. Est-ce qu'il a été bon? Non, il a été moyen. Il a été moyen parce que l'équipe était moyenne. Mais c'est une réalité. On va pas commencer à dire il a joué contre le Bayern, il était incroyable, c'est pas vrai.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Voilà. Donc à un moment, tu as mis Warren Zaïre-Emery dans de meilleures dispositions. Là, il joue à son poste. Ah bah oui, il joue mieux qu'un mec qui joue pas à son poste, c'est logique.
Mais
après, Warren Zaïre-Emery, on parle d'un énorme potentiel. On parle d'un énorme potentiel, Warren. Attention.
Je prends la parole de toi. T'es un peu de mauvaise foi, je trouve, sur Ekitike, Tonton, dans le sens où Ekitike aussi a été essayé à plusieurs postes. Il a été essayé.
Mais il est pas
dans une attaque à deux, il a été essayé sur une aile, etc. Et il n'a pas tout le temps, du Ekitike Mbappé, on en a eu. Alors après, je peux être d'accord avec toi, c'est dans le sens où en fait il faudrait.
Mais Warren est beaucoup plus mature que Ekitike, c'est pas qu'une question d'âge à un moment. Warren, il est prêt. Il est prêt. Ekitike, je suis désolé, je suis d'accord avec Hitch, Rico et toi. Pas le niveau actuel du PSG, et je l'ai dit. Donc pour moi, il faut le prêter dans un club où il va progresser pour voir s'il a le niveau pour jouer chez nous plus tard.
Donc c'est une totale erreur de casting, tout simplement.
Non, c'est pas qu'une erreur de casting. Je veux dire, à un moment, il y a l'effet. On rappelle qu'on veut recruter Ekitike, c'est pas lui qui est visé à la base, c'est Gonçalo Ramos. Sauf que pour l'avoir, on nous demande de payer tout de suite 40 millions qu'on n'a pas. Ekitike, on nous dit, on vous facilite, on vous fait un prêt avec option d'achat que vous payez l'été prochain.
Ouais, mais rien
c'est là la vérité.
Ramos n'ont pas le même profil et n'ont
exactement
pas le même profil.
Exactement, ils n'ont pas le même profil, c'est ce que je te dis, ce n'était pas le joueur prioritaire. Donc à un moment, quand tu récupères les joueurs pas prioritaires, Soler, c'est pareil. Hein. Soler et Ruiz, on les récupère le 31 août. Pourquoi? Parce qu'on voulait vendre des joueurs qu'on n'a pas vendus, on les a prêtés parce qu'ils aimaient trop le club pour partir et pas toucher leur salaire, hein, on va le dire. Et comme on ne les vend pas et qu'on ne dégage pas de masse salariale et qu'on ne dégage pas de vente, eh ben, à un moment, on fait quoi? Eh ben, on recrute des Soler et des Ruiz qui veulent accepter d'être remplaçants au PSG pour jouer pour 3 millions pour être remplaçants net par an. Parce qu'on rappelle, hein, les Paredes Herrera, ils étaient remplaçants au PSG pour 8 millions net par an. Donc à un moment, ben, Campos, il prend ce qui est disponible et qui veut bien venir sur le marché. Et écoute, ben, ils ne sont pas au niveau, hein, mais à un moment, ben, on prend ce qu'on a, mon pote. Hein.
Après, on m'entend ou pas? Oui.
Ouais.
Ok. Après, je réponds à la question, quelle est la différence entre pourquoi Warren Zaïre Emery, ça marche, et pas du coup Ekitike. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu sur Ekitike, enfin sur les peu de matchs que j'ai vus de Reims et les compiles, etc., c'est que Ekitike, il avait de l'insouciance quand il jouait. Il est là, il arrivait en face à face, il tentait une feinte de frappe alors qu'il pouvait tirer en une, décaler, tirer. Il avait on lui donnait des balles, il faisait des contrôles du talon. Il était insouciant.
Il les fait toujours. C'est juste que ça s'appelle des passes ratées en fait.
Oui, bah oui, là il les rate. Mais
il les rate.
Ça ne marche pas au PSG parce que il a perdu son insouciance. On dirait un jeune de 18 ans qui commence à travailler, commence à remplir les impôts. Il oublie tout. Il est venu au Paris Saint-Germain, il a grandi d'un coup. Et le problème, c'est que lorsque tu grandis, c'est bien le QI football. Mais là, il n'a pas encore. Le QI football est immature. Mais en plus, il y a des joueurs qui ont le QI football immature, mais qui ont beaucoup d'insouciance. On prend un Dembélé Dortmund, un Dembélé quand il était en Ligue 1, ils n'avaient pas un QI football de malade, mais ils étaient tellement insouciants. Ils étaient tellement audacieux que ça rattrapait ça. Donc moi je pense qu'il y a une balance. Un joueur qui n'a pas beaucoup de QI football mais qui a une grande insouciance, ça compense. Un joueur qui par contre, il n'est pas insouciant mais il a un gros QI football comme un Zaïre Emery qui lui en plus est insouciant. Zaïre Emery, il a quand même deux qualités. C'est que Zaïre Emery, on l'a vu contre le Bayern, en milieu droit, il n'a pas hésité à tenter. Et en plus, il est insouciant. Et en plus, il est intelligent. Mais le problème, c'est que Kitike, il n'a aucune de ces qualités-là.
Si je résume ce que tu dis, oui. En fait, tu disais qu'avant, il était un peu sympathique parce qu'il était insouciant, même s'il avait rien d'autre, et que maintenant, bah, il a toujours rien d'autre, mais il a plus d'insouciance.
Bah, c'est ça.
Ok.
C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Là, du coup,
c'est néant. Du ciel, là.
C'est néant. Du coup, c'est vrai que peut-être pour qu'il retrouve un peu cette insouciance, ou inversement, pour qu'il progresse dans le QI football ou qui passe les deux, il faudrait peut-être le prêter.
Alors après,
tu vas le prêter ou même qui va le prendre en vrai?
Bah, tu regardes dans les clubs, tu regardes dans les clubs, mais
tu le vends à perte. Hein. Tu le vends à perte. Mais juste voilà. pour comparer sur les deux, alors faut faire attention avec Warren Zaïre Emery parce que c'est pas un produit fini encore. Et pour le coup, lui, Ekitike 20 ans, chez les très jeunes, il commence à être un des vieux. Warren Zaïre Emery, chez les très jeunes, c'est un des très jeunes. Hein. Il a 17 ans, il faut le rappeler. Enfin, il est 16 ans ou 17 ans, mais voilà.
17 en avril ou en mars.
Ouais, voilà, c'est ça. Lui, c'est un très très jeune. Et je lis partout qu'il est limite le chaînon manquant ou qu'il faut faire gaffe parce que bah, typiquement, il y a certains matchs où tu vois qu'il a des limites et il faut encore être dans une gestion de temps de jeu avec lui. Mais effectivement, moi, je participe pas de ta lecture, tonton. J'ai toujours. Alors, je finis juste et après, je te laisse intervenir. Moi, sur Ekitike, hein, ça fait un petit moment que je le dis. Pour moi, c'est un Guillaume Moharo en mieux une fois qu'il aura pris du corps. Avec tout le respect que j'avais pour Guillaume Moharo, mais Guillaume Moharo ne prétendait pas jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain. Mais pour moi, jamais, même à son meilleur niveau, il aura le niveau, et je l'ai toujours dit. Alors qu'un Warren Zaïre Emery, il a encore des choses à apprendre. Comme tu l'as très bien dit, Hitch, il a une part d'insouciance, il a une part de QI football, il a vraiment cette part de QI de football. Il a encore des oublis, mais il est très prometteur et ça te permet. Tu peux le réaliser tout de suite. Et Kitike, moi, je le vois absolument pas. Mais tu voulais réagir, tonton, je te laisse y aller.
Ouais, voilà, aussi pour comparer une dernière fois avec Kitike et Warren, même si ce n'est pas les mêmes pros, les mêmes profils, le même poste et tout. Moi, je vous invite aussi à voir physiquement la différence entre les deux, parce que Ekitike, il est grand, c'est bien, mais c'est un fil de fer. Donc, je veux dire, c'est pas facile d'être dans les défenses de Ligue 1 avec ce physique-là. À l'inverse d'un Warren, je veux dire, Warren a 16 ans, mais physiquement, c'est impressionnant. C'est typiquement le joueur que les clubs de Ligue 1 voulaient former dans les années 2000. Alors, c'est pas forcément un mec qui fait 1m90, mais tu regardes ses jambes, tu regardes son corps, il est foutu physiquement pour jouer en Ligue 1, ce qui n'est pas le cas d'Ekitike. Donc forcément aussi, ça va jouer. Et je pense que Ekitike, à l'image, je vous renvoie à Mbappé, regardez Mbappé quand il arrive au PSG. C'est un fil de fer, mais de la même trempe qu'Ekitike. Hein. Vraiment, c'est des fils de fer. Moi, je pense vraiment pour son bien, Ekitike va soit à Salzbourg l'été prochain parce qu'ils vont perdre Sesko, ils vont peut-être chercher un attaquant pour jouer autour d'Okafor. Soit tu vas à Leipzig parce que là-bas, c'est pareil, ils savent faire progresser les attaquants, mais va dans un club où on te fait progresser déjà, mais même va à la salle. Prends un abonnement, tu as un bon salaire, je ne sais pas le salaire exact que tu touches au PSG, mais je suis sûr que tu peux avoir un abonnement Basic Fit, tu as des accompagnateurs physiques qui sont bons au PSG, fais ce qu'il faut, prends du poids.
On va clore le dossier Ekitike, ça fait longtemps, je souhaite que tu aies raison pour toi, et peut-être pour toi, pour le joueur tout simplement, même si à titre personnel, pour moi Ekitike, ça sera un bon attaquant, dans 7, si les choses évoluent bien pour lui, dans 5-6e de championnat, voire 7-8e de championnat, il n'ira pas vraiment plus haut, mais bon là-dessus, personne ne connaît le futur, et c'est peut-être Tonton qui aura raison, et fondamentalement pour le joueur, il faut souhaiter que Tonton ait raison. On va parler, juste pour terminer sur les individus, et un joueur, moi, où ça me fait mal, c'est un joueur qui commence à enchaîner les pépins physiques, et alors que dès que Bernat est sur le terrain, tu vois l'immense gap qui situe les deux joueurs. T'en as un qui est joueur, qui est capable de, même défensivement, qui est capable de s'adapter tactiquement, c'est-à-dire que le mec, il a toujours joué à 3, quand il arrive à 4, il s'adapte, il lui faut 2 mois d'adaptation pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, tu passes à 3, il est capable d'être haut. En plus de ça, il a une intelligence, c'est-à-dire qu'il sait se recentrer, il sait prendre son aile, ses centres sont intelligents, il sait participer au jeu. Il fait pencher le jeu à gauche de manière extraordinaire, et il se blesse souvent. Est-ce que vous êtes inquiet pour Nuno? Qui veut commencer?
Moi, je veux bien, juste pour finir vite fait déjà avec Ekitike, juste 2 secondes.
Ah, Ekitike, on en a beaucoup parlé.
Juste deux secondes. Il y a quand même des fils de fer qui ont réussi dans le foot. Hein. On a même Pastore récemment chez nous. Il y a Avert. Bref, il y en a qui... C'est un petit peu plus costaud. Mais
Avert, c'est réussi dans le football?
Quand même, Avert, il y a une Ligue des Champions, il marque en finale.
Et depuis, il réussit dans le football, Avert.
Oui, non, mais voilà. Mais
quand même, ils vont te frapper, là.
Non mais là il y a c'est Chelsea, tu peux pas Chelsea de cette année, bon tu peux pas, voilà, c'est
mais
pas
même l'an dernier mais
ah, on s'est éloigné sur Ekitike, on va
pas se... Non mais surtout en fait le gap où on le voit encore plus malheureusement, c'est que la comparaison avec les mecs de devant et Ekitike à côté, ça fait complètement tâche. Et en plus de ça, aujourd'hui c'est quand même plus facile. C'est quoi le problème dans notre PSG? C'est la défense et le milieu de terrain, mais on va dire offensivement tu as quand même les trois de devant qui ont des stats, qui performent, on va dire. Donc c'est plus facile pour un Ekitike quand même de performer devant qu'un Zaïre Emery par exemple au milieu où c'est un no man's land. Et pour autant, Zaïre Emery s'en tire très très bien. Donc à un moment donné, il n'a juste pas le niveau. Et je pense que même s'il progresse, même s'il prend du physique, je pense qu'il n'aura pas le niveau. Je suis assez d'accord avec toi. Bref, pour Nuno Mendes en tout cas, oui, c'est alarmant. C'est alarmant. Alors, comme j'ai dit sur Twitter, moi, ce qui me rassure, c'est que là, c'est sa cheville. C'est pas musculaire. Si ça avait été musculaire, une rechute ou quoi, je t'aurais dit, bon, là, c'est inquiétant. Là, c'est la cheville. Donc ça m'inquiète moins. Par contre, c'est vrai qu'il les enchaîne, mais en même temps, malheureusement, c'est le jeu de Nuno Mendes. Il est très musclé, il a des appuis très forts, il démarre très vite, il n'a pas peur du contact, il n'a pas peur de mettre le pied. Donc je pense que par rapport à son jeu, malheureusement, il va encore en avoir des blessures. Et je pense qu'il va falloir, tout simplement avoir deux gros latéral gauche, de gros latéraux gauche.
Je t'invite à lire le commentaire que j'ai mis en avant, je sais pas si tu le vois, on peut critiquer Bernat, mais il est fiable.
Non, il est pas fiable, non, je suis désolé. il est sur un but à chaque fois dans un match.
Il est de bonne volonté, hein, faut le dire, hein, Bernat. Non, oui.
Et même offensivement, d'ailleurs, il a été bon dans ce match-là, offensivement, il a bien apporté. Hein. Beaucoup de gestes techniques, il s'est projeté, il a failli marquer. Donc offensivement, on a quand même trouvé un bon Bernat, moi je trouve. Mais défensivement, c'est pas du tout fiable. Il oublie toujours son joueur dans le dos, il se fait malmener, il revient jamais au contact, il se fait toujours prendre dans son dos, et encore une fois, il est coupable sur le but. À chaque match. Et je l'ai dit, quand il est rentré, il va encore être coupable sur un but, et ça a été le cas. Il se fait prendre dans le dos, et à la course, il n'arrive pas à le rattraper, et Bamba marque. Donc à un moment donné, non, il n'est pas fiable. Je suis désolé,
Pour l'adversaire, il est très fiable.
Oui, ah, ça c'est sûr. Dès que tu as un joueur un petit peu rapide sur son côté, c'est terminé. Et face au Bayern, face à Coman, mais c'est terminé. Ça,
et puis même offensivement, il a rendu une très bonne copie aujourd'hui. Rend pas toujours des très bonnes copies offensivement. Et juste, faut bien comprendre pour Bernat, on n'est pas en train de critiquer. Et c'était un très très bon joueur, notamment quand il est arrivé à Paris. Mais le mec, il s'est tapé déjà avant d'arriver à Paris, il s'est tapé une énorme blessure au genou. Et à Paris, il s'est retapé la même blessure. Et au niveau des appuis, bah, il n'a plus la pointe de vitesse qu'il avait, il n'a plus la vivacité qu'il avait. Et les différences qu'il fait, elles sont infiniment moindres. Et comme le disait très bien Recoba, c'est défensivement, c'est un vrai problème. Il perd au duel. Des fois, il est présent, il perd au duel, mais des fois, il n'est même pas capable de revenir. Enfin, on ne peut pas considérer qu'il est fiable. Je te laisse finir sur Nuno et après réagir à qui veut sur Nuno.
Bah non, mais je vois par rapport à Neymar, je vois un commentaire passer par rapport à l'hygiène de vie. Le truc, c'est que Neymar aussi, il a le jeu qui fait qu'il se blesse souvent. Voilà, il garde beaucoup le ballon, il subit énormément de coups. Nous, on ne dit pas que c'est que l'hygiène de vie, hein, moi je l'ai dit, mais ça en fait partie. Forcément, parce que tu cicatrises moins vite, tu t'en remets moins vite, etc., etc. Ça en fait partie. Maintenant, évidemment, que les blessures de Nuno, les blessures de Neymar sont dues à leur jeu, dues à leurs caractéristiques physiques et dues à l'adversaire, forcément. Ils prennent beaucoup de coups, ils prennent beaucoup de risques. Et donc forcément que tu as beaucoup plus de risques de te blesser, tout simplement.
Alors avant de relancer, je voulais réagir vite fait sur Neymar. Neymar, moi, cette saison, il y avait eu un espoir. C'est un moment qu'il réinvente son jeu. Il l'a fait un petit moment où tout à coup, il était plus organisateur et moins justement dans la recherche du duel et du face-à-face. Et c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi il n'a pas réussi à poursuivre sur cette voie. Il est revenu dans ce joueur qui cherche en permanence le duel et à gagner les 1 contre 1. Et effectivement, il n'a plus la vivacité pour les gagner aussi facilement qu'avant. Et ça provoque énormément de contacts. Tonton Hitch, est-ce que vous vouliez réagir sur Nuno?
Tu veux y aller ou j'y vais?
Vas-y.
Bah Nuno, bah ouais, moi aussi je commence à me poser des questions. C'était notre spécialiste du foot portugais, Alexandre Carvalho, qui posait déjà la question entre nous. Va falloir qu'on discute des blessures de Nuno qui sont récurrentes. Alors, il a peut-être une hygiène de vie pire que Neymar, mais lui, il est assez malin pour ne pas l'afficher sur Instagram. Mais du coup. Je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées, peut-être qu'il a une hygiène de vie déplorable lui aussi, hein, on ne sait pas, tu vois. Mais s'il en a une, en tout cas, il est discret. S'il en a une, il est discret.
À son âge, ça n'a pas d'impact. Ça a beaucoup moins d'impact l'hygiène de vie quand t'as 21 ans ou 20 ans que quand
Bien entendu, je répondais à notre ami Vincent. Mais moi, vraiment, par contre, moi je pense qu'il faut prendre un remplaçant plus fiable que Bernat à Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes commence à se blesser. Régulièrement quand même. Et Bernat, je rappelle, alors ouais, j'ai beaucoup aimé ses performances au PSG, notamment l'année 2018 où il nous sauve contre Naples, parce que c'est tout le temps l'argument que les gens nous sortent pour dire que Bernat est bon, mais c'était en 2018. On est en 2023, les mecs, depuis Bernat, défensivement, c'est devenu une catastrophe parce qu'il a enchaîné les blessures, il faut le dire. Il a doublé son salaire en étant blessé parce que grâce à Leonardo et Kurzawa, un super jeu, il n'y avait personne de disponible, ils ont réussi à nous prendre en otage sur les salaires. Donc moi, je pense qu'à un moment, il y a des joueurs qui peuvent être disponibles cet été. Ça dépend aussi dans quelle disposition on va jouer. Donc, il va falloir se renseigner, savoir comment on va jouer.
Non, je peux réagir à ça.
Non plus.
Il est remplaçant.
Au revoir. Mais à un moment, tu vois, ce que je dis, c'est juste qu'il faut rechercher à l'avance avec quel entraîneur on va jouer l'an prochain, quel système de jeu on va mettre, quelle animation. Et à partir de ça, tu recrutes un joueur qui aura le profil. Parce que si tu vas jouer dans une défense à 4 et que tu vas recruter Angelinho de Leipzig, mais je t'insulte, parce que ouais, offensivement, on sera bon, mais il va prendre des boulevards dans son dos. Alors que si tu le fais pour jouer à 3 derrière, ça a du sens de mettre Angelinho en remplaçant Nuno en piston gauche, tu vois. Donc d'où le fait que pour moi, tu dois d'abord définir une stratégie et ensuite tu recruteras un joueur en fonction qui aura le profil pour être le remplaçant de Nuno Mendes. Parce que Nuno Mendes, lui, il peut jouer à 4 et à 3. Mais ses blessures, elles commencent à poser problème. Et moi, je ne te dis pas forcément chercher un top joueur numéro 1, mais un joueur qui a le niveau pour le concurrencer et qui, si Nuno se blesse, t'es pas en sueur en te disant ce joueur va remplacer Nuno, quoi.
Et c'est là où tu vois, c'est là où tu mesures le niveau Nuno dans ta remarque, c'est que tu es en train de dire en fonction de comment va jouer le coach l'année prochaine, ça va te déterminer quel remplaçant tu vas prendre.
Mais lui, il s'adaptera.
T'es pas en train de te demander comment est-ce qu'on va jouer par rapport au titulaire, parce que lui, il peut jouer quel que soit le coach et quel que soit les systèmes. Je te laisse réagir, Hitch, et une fois que tu auras terminé, tu peux enchaîner avec les top et flop.
Donc Nuno, c'est un talent brut. Je pense que c'est peut-être le meilleur crack actuellement au poste de latéral gauche dans le monde. Dans le monde entier, je pense qu'on ne fait pas autant bien que Nuno, parce que Nuno, certes, bon, le pâle visage de l'équipe, match par match, l'aide à briller, hein, parce qu'on remarque plus un lingot d'or dans des charbons, on va dire. Mais Nuno Mendes, c'est un niveau qui est excellent match après match. Maintenant, le problème, c'est qu'il se blesse énormément. Et ça, le problème, c'est que la cheville, on peut se faire des entorses chroniques parce que ça a une mémoire. Donc peut-être qu'il a une cheville qui est faible. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est comme un boxeur très bon, mais qui a une mâchoire. Qui a une mâchoire. C'est quoi on dit mâchoire en plastique, c'est comme ça qu'on dit. Mâchoire en verre. En verre, c'est ça. Mâchoire en verre. C'est pareil. Donc, c'est handicapant. Donc, il faut nécessairement un remplaçant. Après, peut-être qu'il a une hygiène de vie déplorable. Mais comme le disait Z très justement, avoir une hygiène de vie déplorable quand tu es jeune, tu peux quand même t'en sortir par rapport à Neymar. Et je vais juste parler de Neymar rapidement sur sa blessure, parce qu'on dit oui, mais Neymar, il se blesse, oui, l'hygiène de vie, etc. Voilà. Moi, je tiens à dire qu'il y a un joueur de foot qui a un an de plus que Neymar, qui s'appelle Riyad Mahrez actuellement, qui a quasiment le même jeu que Neymar, qui percute match après match, qui
joue en première ligue.
Il ne blesse pas. Hein,
il joue en première ligue, qui plus est.
Il joue en première ligue en plus. Donc Riyad Mahrez qui a quasiment le même jeu que Neymar, qui percute match après match, il ne se blesse pas. On a Ousmane Dembélé, bon depuis qu'il s'est marié, c'est devenu un autre homme, mais pareil, il ne se blesse pas. Donc il faut arrêter de dire oui.
Ousmane Dembélé est blessé.
Ah. Ah. Pour le coup, c'est très mal vieilli.
Par contre, Bernardo Silva ne l'est pas.
Par contre, Bernardo Silva ne l'est pas, mais voilà, moi, l'exemple Riyad Mahrez est très bien. Riyad Mahrez, il va chercher le duel chaque match et ne se blesse pas. Pourquoi Neymar le fait? Voilà. C'est le même jeu. Et je suis d'accord avec Z, en début d'année, il s'était réorienté avec un poste de créateur et il était beaucoup plus dangereux parce qu'au final, quand il va chercher des duels, il perd... Oui, mais Messi ne se blesse pas parce que Messi marche. Hein Messi... Hein
il marche, mais les contacts, il en a. Et il en avait oui, notamment contacts, à Barcelone, etc. Non, mais justement, là-dessus, c'est un exemple parce que Messi, pour le coup, en termes d'hygiène, il est connu pour ça. Il avait une hygiène exemplaire. Alors peut-être qu'il se laisse un peu aller maintenant vers la. Alors qu'on se rapproche de la fin de sa carrière, mais c'est un joueur qui avait une hygiène exemplaire, que ce soit l'alimentation, le sommeil, etc. etc. Il était exemplaire, comme peut l'être aussi un Kylian Mbappé, etc. Et tu vois qu'effectivement, c'est des joueurs qui, quand ils ont des gènes, c'est des gènes qui durent jamais très longtemps et ils se remettent très vite sur pied.
Non, clairement, et en plus Messi est assez intelligent. Messi quand même, on parle d'un joueur qui a un QI football énorme. Messi sait éviter les mauvais coups, il sait mettre son corps en opposition. Messi, déjà, c'est très difficile de lui prendre la balle. Parce que ça fait peut-être 15 ans qu'on sait que lorsqu'il est le conduit de balle, la balle, elle a quelques millimètres, quelques centimètres de son pied. Et c'est toujours très difficile. Et Messi, je pense qu'il a trouvé la recette, mais encore une fois, Messi est Messi. Même dans un mauvais jour, même s'il veut pas jouer, Messi est Messi, donc c'est pas comparable. Mais voilà, c'était. Maintenant, on va parler des top et flop. Top, bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est le Paris. Kylian Mbappé est le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est ce joueur clutch. Et Kylian Mbappé mérite d'être capitaine au Paris Saint-Germain dans un avenir proche ou futur. Pourquoi? Parce que Kimpembe aujourd'hui, qui peut être un candidat au capitanat, on voit Kimpembe aujourd'hui, un but, il est de sa faute. Voilà. Mbappé, il porte cette équipe. Match après match, il porte cette équipe. Mahrez est un vrai coach. Oui, Mahrez est un vrai coach, mais quand même, Leicester, il faisait ça. City, il faisait ça. Il faut arrêter de me dire n'importe quoi. Ça
ouais, Leicester, il avait Ranieri aussi.
On va pas partir bref, sur Mahrez.
Bref, top et flop. Top et flop. Et je défends Mahrez et qui est algérien, je suis marocain. Je tiens à dire que... Hein, voilà.
Continue, c'est... j'aime ça.
Voilà. Bref.
C'est Bernardo Silva qui est algérien.
Oui, c'est les Kabyles peut-être. C'est vrai que c'est l'info qu'on n'a pas. Ok, bref. Mbappé top, rien à dire. Mbappé clinique, Mbappé chirurgical, Mbappé tranchant dans ses appels. Mbappé c'est la 5G dans une équipe qui est en ADSL. Voilà. Donc il a cette capacité à accélérer énormément les matchs. Donc Mbappé pour moi c'est le top et je pense que Mbappé je vais lui faire le respect de le mettre. D'habitude je dois mettre 3 joueurs. Là je vais en mettre 1. Je vais mettre juste Mbappé. Voilà parce que vu son match. Je pense que personne mérite d'être à côté de lui. Voilà. Même si Neymar est pas trop mal, même si l'entrée de Zaire Emery est bonne, même si Fabian Ruiz il fait des bons duels pour une fois, mais Mbappé c'est Mbappé. En tant que flop, par contre, Chana, on a Kimpembe qui est fautif sur le premier but. On a Donnarumma. Donnarumma, bon, aujourd'hui il encaisse 3. Donnarumma, moi de toute façon, j'ai toujours dit que il peut réaliser un bon match. Donnarumma actuellement à la différence d'un Navas c'est pas un goal tu sais qu'il te fera cet arrêt décisif quand je dis décisif certes il fait deux bons arrêts contre le Bayern mais il fait également une boulette
rassure moi t'étais enfermé dans une cave t'as pas vu les matchs de fin janvier début février là
Ah bon, pourquoi il y a eu des matchs? Benzema jouait?
Donnarumma, il a fait effectivement une boule à Ligue des Champions, mais sinon Donnarumma, il nous a évité
oui.
de
combien de buts. Oui, non, mais, voilà, il faut être mesuré. Je vais le dire. Parce que le Paris Saint-Germain, parce que Donnarumma, contre des équipes qui dominent en Ligue 1, Donnarumma peut être bon, mais Donnarumma sur un match à enjeu où il y a du mental. Il y a du mental, où il y a un impact mental. Est-ce que Donnarumma, il peut fournir cet arrêt qui empêche le match de changer. Donnarumma, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il se mange un but gag contre le Bayern, et ben ça l'a libéré.
T'as pas compris les règles du jeu, Hitch. On parle des top et flop du match.
Oui, mais top et flop de ce match. Mais pour moi, quand même, il se mange 3 buts de la Roma. C'est un flop.
Ouais, il peut faire quoi sur les 3 buts?
Contre Monaco, tu mets en flop du coup?
Contre Monaco, ouais, oui.
Bah ouais. Bah non, attends, t'as vu le match qu'il fait contre Monaco, Donnarumma? Il n'est pas là,
en France. Si tu veux, c'est un flop.
Moi, quand même, il faut quand même avoir une attente. Il faut avoir une attente. Je pense que moi, l'attente du Paris Saint-Germain, la valeur étalon, c'est Navas. La valeur étalon, c'est Navas. On met Navas contre Monaco, on met Navas contre Lille aujourd'hui. Je ne le vois pas se manger 3 buts, même avec toutes les sauces qu'on se mange. Je pense que Navas a fait des matchs où l'adversaire a mis 18 tirs cadrés.
Navas, il est bon en ce moment, Hitch, juste.
Comment?
Est-ce que Navas, il est bon en ce moment?
Bah après, ouais, non,
mais... Navas est au PSG en ce moment. Donc, si tu veux, tu vois...
Navas n'est pas au PSG en ce moment.
Le débat de l'année dernière, j'interviens. Le débat de l'année dernière, Navas, Donnarumma, où chacun est dans des camps rangés, ils ont leurs fans, machin. Ok, pourquoi pas, mais on peut éviter d'à chaque fois le ramener sur le plateau. On peut juger Donnarumma, par exemple, typiquement en Ligue des Champions, Donnarumma fait une énorme boulette, on peut le dire. Il mérite une très mauvaise note. Mais alors après, maintenant, si parce que tu as toujours envie que ce soit Navas, alors que Navas, c'est limite en
or.
On en est à se demander si c'est encore marché, ma Navas, si tu veux.
C'est pas ça,
encore à marcher.
Non, mais c'est pas ça.
Toi, on va pas mettre sur Donnarumma quand il fait des bons matchs. Quoi.
Non, mais c'est pas ça. Mais quand tu recrutes Donnarumma, certes, c'est une plus-value, certes, tu le recrutes jeune. Mais Donnarumma, tu le recrutes. C'est le meilleur joueur de l'Euro. Il vient quand même avec une casquette. Tu recrutes pas un jeune pour faire progresser. Donnarumma, quand il vient au club avec une casquette, avec un statut. Le statut du meilleur joueur de l'Euro. Le statut d'actuellement le niveau Mbappé, mais dans les goals. Tu vois ce que je veux dire? Là, Donnarumma, il se mange 3 buts. Bon, il peut en éviter quand même un. D'accord? Là, contre le Bayern, boulette. Moi, je l'attends contre Marseille. Moi, je l'attends contre Marseille. Moi, Donnarumma, il n'a pas assez de
sérénité. D'accord, on va passer à autre chose que Donnarumma, voilà. Parce que Donnarumma, c'est un peu trop le mec sur qui tu as envie de taper, quoi.
Ouais, donc, non.
Alors,
non.
Vas-y, les autres flops, maintenant.
Ok, les autres flops. Et les autres flops, c'est Kimpembe, pour moi, qui n'a pas été dans son match. Peut-être qu'il revient moins bien de blessure, mais que ce soit dans son placement ou dans sa gestion des 1 contre 1, ou la gestion sur le premier but, je ne l'ai pas trouvé bon. Voilà.
Ok, d'accord, on va enchaîner. Tiens, tonton, top et flop. Récoba, c'est toi qui vas être en galère.
Bah, flop, du coup, en réfléchissant un peu. Non, j'ai commencé par les tops. Les tops, je vais mettre Mbappé, facile à faire. Hein. Bah, Mbappé, c'est un prédateur. C'est-à-dire qu'il peut te faire un match où genre il va être absent pendant longtemps. Tu sais pas trop s'il est là, à quoi il sert. Et pouf, il finit le match avec 2 buts. Et du coup, en fait, c'est lui qui te sonne la révolte. Il passe du 3-2 au 3-3. Bah, t'es obligé de le mettre dans les hommes du match. C'est littéralement ce mec qui est là pour tuer l'adversaire, et c'est ce qu'il a fait ce soir encore. En autre top, je vais mettre Donnarumma pour faire grincer des dents Hitch, parce que s'il n'est pas là en première mi-temps, on se prend une cartouche mais hallucinante, de la même manière que contre Monaco. Et du coup, on ne pourrait jamais revenir dans le match si Lille prend l'écart qu'il est censé prendre sans Donnarumma dans les cages. Donc moi, je trouve qu'au contraire, j'allais même dire, et je continue de le dire, depuis que Navas a quitté le PSG, Donnarumma est plus serein. Il réalise plus de parades décisives qu'il n'aurait pas réalisées avant. Alors certes, ce n'est pas encore parfait. Oui, Donnarumma doit progresser et devenir le gardien pour lequel on l'a recruté, mais je pense que ça va devenir le cas si on lui enlève la pression qu'on lui a mis avec Navas, parce qu'on rappelle quand même que la gestion Navas-Donnarumma, c'est la gestion la plus clownesque des gardiens depuis Canizares et Casillas en Espagne à l'époque. Voilà. Donc au niveau des flops, est-ce que je mets un troisième top? Si d'entrée de Warren, que j'ai beaucoup aimé, comme d'hab, on va dire ce qu'on aime bien et ce qu'on n'aime pas, mais l'entrée de Warren a fait du bien, qui continue à montrer ce qu'il montre, et peut-être qu'il gagnera une place de plus en plus importante au sein de ses effectifs, malgré son très jeune âge. Et au niveau des flops, j'ai rejoindre Hitch sur Kimpembe, et j'ai ajouté Ramos, parce que la paire, en fait, ne m'a pas rassuré du tout, n'a pas été au niveau. Alors comment l'expliquer? Peut-être que Kimpembe, avec son retour de blessure, n'était pas au top de sa forme. Peut-être que Ramos n'a pas assez d'automatisme avec Kimpembe, parce que si Ramos, on rappelle, son côté préférentiel, c'est l'axe gauche qui est occupé par Kimpembe. Mais je n'ai pas aimé cette charnière. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre dans mes flops? Je vais pas mettre Bernat pour une fois, j'ai beaucoup chargé Bernat, mais il a tenté des choses, même s'il coûte un but, il a tenté offensivement, il fait un superbe 1-2 d'ailleurs sur le deuxième but de Mbappé, donc pour une fois j'ai laissé Bernat tranquille. Solaire, j'ai trouvé quelconque, j'ai pas trouvé son entrée décisive et celle d'Ekitike pareil, donc j'ai terminé mes deux flops avec ces deux-là. Malgré les circonstances que je leur ai données précédemment en live, on a le droit de quand même pas être satisfait de leur prestation ce soir.
Moi je vais pas être trop original, je vais mettre Mbappé aussi, parce que forcément il change tout, l'avoir dans l'équipe c'est incroyable, tu vois la différence avec et sans, même la mentalité, comment il harangue les supporters, comment il y a toujours cette exigence aussi qu'il a vis-à-vis des coéquipiers, donc forcément il change tout dans ce qu'il apporte sur le terrain, que ce soit son niveau footballistique ou sa mentalité. Après le débat capitaine, pas capitaine, j'ai pas envie de rentrer dedans, mais peu importe, l'important c'est que ce soit un leader, après qu'il ait le brassard ou pas, on s'en fout. J'ai envie de mettre Donnarumma aussi dans les tops, parce que quand on gagne 2-0, on peut aussi perdre 2-0, mais grâce à lui, il nous maintient, que ce soit l'arrêt sur l'erreur de Kimpembe, que je mettrai évidemment dans mes flops, ou les autres qu'il a pu réaliser. Après, il y aura toujours un débat avec Donnarumma, parce que oui, il y a des fois, il peut mieux faire, oui, il prend des buts, mais il est toujours abandonné par sa défense. Après, pour moi, le débat avec Navas n'a plus raison d'être. Il y avait une opportunité de marché. Il y avait l'âge aussi qui faisait que. Donc, je pense que voilà, il faut arrêter avec ce débat. Aujourd'hui, c'est Donnarumma, c'est l'avenir. Il est encore perfectible. Il doit encore s'améliorer, que ce soit au pied, dans les airs, faire plus d'arrêt clutch, on va dire. Mais il en fait déjà beaucoup. Il est beaucoup abandonné par sa défense. Et pour moi, en 2023, pour l'instant, tu ne peux pas lui dire grand-chose. Et encore ce soir, si on est dans le match, si on mène 2-0, c'est grâce à lui. Donc, je le mets dans mes tops. Le troisième que je vais mettre, c'est Zaïre Emery. Pour moi, son entrée a beaucoup changé. Il a apporté un lien qu'on n'avait pas au milieu de terrain, de se projeter, que ce soit par la passe, par les percussions. Il a énormément apporté. Il apporte de l'impact physique au milieu. Danilo aussi, d'ailleurs, beaucoup plus serein avec lui, comme d'habitude. Donc, je vais mettre Zaïre Emery en troisième. Et pour mes flops, donc j'ai Kimpembe qui fait, comme d'habitude, une erreur, une boulette, une tête qui sort de nulle part. Fébrilité défensive, on peut mettre Ramos avec aussi. Mais voilà, c'est très compliqué, Kimpembe, qui a du mal à revenir. Bon, il va falloir lui laisser du temps encore. Mais bon, à un moment donné, j'aimerais bien revoir un Kimpembe Prime, parce qu'il va falloir se poser la question aussi de le mettre titulaire ou pas, parce qu'on ne va pas mettre une immunité parce que c'est un Titi parisien. S'il n'a pas le niveau, il doit aller sur le banc. Donc j'espère qu'il va se remettre. Et qui sait que je pourrais mettre de plus? Messi, parce que même s'il a un coup franc magnifique, c'est un flop. Et je pense que c'est peut-être le pire match de sa carrière. Parce que pour le coup, on ne l'a absolument pas vu. Les derniers matchs, ça a été déjà un peu un flop. Mais il y avait quand même quelques percussions. Il y avait quelque chose contre le Bayern. On le voyait souvent quand même prendre la balle, percuter. Mais là, on ne l'a absolument pas vu toucher un ballon. Alors, qu'on ne me dise pas, les fans de Messi, oui, mais il met un coup franc. Et c'est Messi quand même, on peut attendre plus. Et on l'a pas vu du match.
Tu sais combien il a touché de ballon, Messi, ce soir, si tu veux la stat?
C'est famélique.
Et puis, t'es pas prêt. Mouille toi la nuque, il a touché 42 ballons. 42 ballons.
Et le nom qu'il en a perdu, c'est genre, il a perdu le ballon.
Son comportement, en fait, son comportement sur le terrain, c'est abusé. Quand il y a, je crois qu'il y a 3-3, on prend une contre-attaque, Messi s'arrête. Il est à 1 mètre du joueur, il le laisse partir.
Il commence super bien au retour de Coupe du Monde et il y a les rumeurs de finalement il va pas prolonger machin bidule chouette, et c'est comme si depuis qu'il n'avait pas prolongé au niveau de l'investissement il n'était plus là, parce que mine de rien ça fait plusieurs matchs, alors qu'il est super bien revenu de la Coupe du Monde, ça fait plusieurs matchs que dans l'investissement il n'est plus là Messi.
Mais c'est un aimant à ballon normalement, mais si c'est le mec qui est censé prendre le jeu à son compte, qui est censé toucher entre 80 et 120 ballons par match, 40 ballons.
Il n'est pas concerné, dans l'attitude, il est pas concerné, et moi ça me gêne. Oui, ce soir il met un coup franc, mais à un moment donné,
Moi il y a un flop que j'aimerais revenir sur, un flop que j'ai pas dit. Et je sais même pas, parfois c'est souvent les plus gros flops que tu les oublies. C'est grave. Moi j'ai pas mis en flop Galtier. J'ai pas mis en flop Galtier.
C'est vrai.
Mais Galtier, mais quel flop! Et je tiens à dire qu'il y a des images qui circulent sur Internet où déjà, il y a Campos qui est assis sur le banc et Galtier. Genre Campos, il se dit, mais ce mec-là est trop nul, j'ai besoin de lui. Il y a un moment, Galtier, je ne sais pas, il va où, peut-être qu'il va aux toilettes, je ne sais pas. Campos le remplace sur le banc. C'est une situation qui est lunaire. C'est une situation qui est aberrante. Galtier quand même. Lors du coup franc de Messi, il était comme nous. Nous, derrière notre télé, on n'était pas bien. Lui, sur le banc, il n'était pas bien. Galtier aujourd'hui, je tiens à le dire encore, à part son but à la reprise où je en veux, parce que c'est bis repetita du Bayern, hein, après sa cause tactique but, Galtier, quand même, il se mange un carton jaune. Galtier, c'est un peu un Ancelotti. Vous voyez un peu Ancelotti? C'est quelqu'un qui est calme. Est-ce que vous voyez Ancelotti péter un câble, sortir de ses gonds sur le banc? Ça n'arrive pas. Galtier, il a un personnage de coach qui est calme. Aujourd'hui, il est sorti de son personnage. Il est sorti de son personnage parce qu'il était dépassé. Donc Galtier, mais c'est un flop, mais terrible.
Mais du coup, mais coach Campos en top, du coup,
non? Tu peux mettre Campos avec. Hein.
Ah mais Campos, pour moi Campos, je sais pas ce qu'il fait là. Moi Campos, moi je suis coach du PSG, il est là, il s'assoit à côté de moi, je lui appelle la sécurité. Chacun son métier au bout d'un moment. Passe tes diplômes, comment ça il s'assoit, comment ça il discute tactique, t'es directeur, t'es quoi, t'es conseiller sportif? T'es même pas directeur sportif, t'es conseiller sportif.
Ouais, il gère son fusible, conseiller sportif, oui. Il gère son fusible en fait. Il gère son fusible.
Non mais qu'il reste à sa place. C'est pas normal qu'il y ait des facecams Campos qui pète un câble dans la zone des entraîneurs. Qu'est-ce qu'il fait là, ce mec-là?
Mais Hitch, moi je suis même pas étonné.
Il doit pas avoir de dépassement de position.
Mais Hitch, si Galtier perd ce soir, Galtier saute. Et si Galtier saute, Campos, il est fragilisé ou pas d'après toi?
Mais Campos doit sauter.
Campos, il a joué la carte en mode, là je joue ma peau, là je ne vais pas laisser Galtier dessiner de mon destin entre mes mains.
Mais c'est quand même révélateur. On voit Campos, qui est conseiller sportif, sur le banc, qui se met de tactique. Campos, le dernier match, il vient à la mi-temps.
Et tout le contre le Bayern. Et tout le contre le Bayern, il est descendu à la mi-temps. Oui, bon, mais ça l'encadrement du PSG, ils lavent leur linge sale comme ils ont envie de le laver. Franchement, peu me chaud. Enfin, tu vois, il y a un moment. Par contre, il y a un flop que vous n'avez pas nommé. Je ne sais même pas comment vous n'avez pas fait pour ne pas le nommer. C'est Verratti, quoi. Il y a plein de gens qui vont dire que le penalty, il n'y a pas penalty. Ouais, non, mais il y a plein de gens qui vont dire que le penalty, il n'y a pas penalty. Peut-être, on peut en débattre, c'est pas une erreur manifeste, mais néanmoins, il n'y a aucun danger dans la zone où il est. Oui, c'est dans la surface, mais il n'y a aucun danger. Le mec est complètement isolé et il va faire un geste qui est limite. C'est catastrophique comme geste. Même si l'arbitre ne siffle pas, c'est un très très mauvais geste. Et sur l'autre but, bah, c'est lui qui est au marquage pour la passe. Donc Marco Verratti, il est sur deux buts marqués par les Lillois. Il est sur un nombre de duels qui sont perdus au milieu de terrain, dont les chiffres sont hallucinants. Et effectivement, il revient bien en fin de match, mais on prend en début de match, il fait une action, mais sinon, il est surtout discret et il permet aux autres d'exister. Mais dans l'entre-deux, et Marco Verratti, ça fait plusieurs matchs où physiquement, il est aux fraises, et pour moi, il a été très très mauvais, et il coûte deux buts quand même. C'est pas rien. C'est pas rien d'être directement impliqué sur deux buts. Et après, bon, bah, sinon, pour les tops et les flops, pour moi, vous avez dit l'essentiel. Sur Kimpembe, je serais plutôt les rangs que vous, parce qu'il faut, enfin, on se demandait s'il allait revenir un jour, hein, Kimpembe. On était en train de se demander s'il lui manquait pas des jambes, s'était pas fait amputer des jambes depuis le temps. Enfin, il y avait zéro nouvelle sur lui. On était dans le blackout total. Bon, bah, là, il revient. Moi, je vais pas lui taper dessus sur le premier match. Et sur ceux qui sont en train de citer Navas, blablabla. Ça se demandait, vous allez défendre Navas jusqu'à ce qu'il sera dans le fauteuil roulant quand il sera dans la maison de retraite, parce que là déjà
il est plus chez nous.
Navas se blesse souvent. Quand il est là, il est très mauvais et vous êtes encore en train de le réclamer. Enfin, il va falloir qu'il ait quoi pour que vous arrêtiez de le réclamer.
Non, mais après derrière, c'est qu'il est bon à Nottingham, ok, mais il n'est plus chez nous. C'est un moment, c'est acté. Et d'ailleurs, Navas aime tellement le club. D'ailleurs, il faut le préciser, Navas, il aime tellement le club qu'il n'a pas voulu le quitter sans toucher son salaire.
Oui, mais ça,
c'est pas des détails, parce que c'est à cause de ce genre de comportement que les mêmes ont eu l'été dernier qu'on ne peut pas recruter des bons joueurs. Bah oui, parce qu'ils ne veulent pas quitter le club, donc on ne dégage pas de masse salariale et on l'a tué.
Ah oui, mais tu peux en vouloir aux joueurs pour ça, mais c'est aussi le club qui a une gestion, une politique de donner des salaires, j'arrive pas à trouver le verbe, mais de donner des salaires, contrats et des salaires qui sont complètement hors sol par rapport à la réalité du marché. Et le joueur qui va vouloir tirer avantage d'une situation qu'on lui a donnée, moi je vais pas lui tirer dessus. Mais juste arrêter de le réclamer, quoi. Arrêtez de le réclamer. Il y a un moment, il faut savoir passer à autre chose. Donnarumma, des fois, il pose question. Et c'est vrai que Donnarumma, mine de rien, à l'arrivée, tu as quand même pas mal de boulettes qui font mal. Celle contre le Bayern, elle coûte cher. Et autant je suis d'accord, il va être dans un climat plus serein, mais par contre, il va vraiment falloir qu'il arrête de les faire, ces boulettes-là. Et son crédit boulette. Moi, j'étais un grand défenseur de Donnarumma. Moi, je n'ai jamais été vraiment fan de Navas. Mais bon, après, c'est une question d'élection personnelle. Mais son crédit boulette, il commence à être entamé, Donnarumma. Et maintenant, il va falloir qu'il arrête de les faire. Il va falloir arrêter de lui chercher des excuses. Mais je ne suis pas d'accord quand on le critique alors qu'il fait des bons matchs. Et là, je trouve ça très injuste. Messieurs, est-ce que vous vouliez ajouter un truc? Alors déjà, j'ai un truc à dire, c'est qu'il n'y a pas assez de pouces. Il n'y a pas assez de pouces. Hein. Je vais utiliser la méthode à la Barry. C'est un duo. Alors, c'est un mix, en fait. Il y a eu un morph entre Rabiot et comment il s'appelle, et Paredes. Et donc, il y a un mix Rabiot-Paredes qui va revenir chez vous. Puis ensuite, de ça, au Parc des Princes, si vous ne mettez pas un pouce bleu, genre là, maintenant, tout de suite. Non, sérieusement, on compte sur vous. On a besoin de ça pour un référencement. Ça nous aide. Vous êtes là, tranquille, en train de regarder. Vous cliquez juste sur le petit plus. Là, sur le
ça coûte 0 centime.
Ça vous coûte que de. Et nous, ça nous aide. Donc, on compte sur vous pour les mettre. Merci beaucoup. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter un truc?
Tout est dit. Énervant, je pense
pour conclure rapidement, le Paris Saint-Germain s'impose un peu dans la douleur, dans l'émotion, dans pas mal de choses. Encore une fois, c'était que Lille. Hein, je vois les joueurs célébrer, je vois Galtier courir partout comme si on a eu le titre. Il faut un peu de mesure. Après, ça démontre encore une fois la situation critique du club. Le Paris Saint-Germain affronte le Bayern. Le Bayern, on a de la chance que, mine de rien, c'était l'un des tirages les plus favorables. Hein, parce que le Bayern ils sont virtuellement deuxième. Parce que je ne sais pas ce que fait l'Union de Berlin. Il me semble que l'Union de Berlin, ils sont peut-être en train de gagner. Donc s'ils sont en train de gagner, ils sont virtuellement deuxième. Et dans tous les cas, ils vont jouer l'Union de Berlin la semaine prochaine pour la première place du classement.
L'Union n'est toujours pas en train de gagner, je ne valide pas.
Oui, il y a 0-0.
Le fait que le Bayern en meilleur tirage, si on avait gagné Benfica, on jouerait Bruges si on avait fait le taf en
plus. Il y a 0-0 là, il y a 0-0 l'Union Berlin Schalke. Oui, donc du coup, le Bayern, ils vont aussi avoir le destin entre leurs mains. Ça va être une semaine autant importante pour eux que pour nous. Donc au final, c'est une équipe miroir qu'on va affronter. Et ceux qui disent oui, mais le Bayern ne sont pas en crise, le Bayern, je pense que vous idolâtrez un peu trop et vous surestimez un peu trop.
Mais du coup, c'est les premières. On va regarder la pelouse, on va se voir nous-mêmes.
Peut-être.
Comment ça se passe en fait, les équipes
miroirs? Il y a de la neige. Non, mais ça va être ça. C'est une équipe qui a le miroir de nous parce que c'est une équipe qui ne survole pas son championnat. C'est une équipe qui a fait un très mauvais mois de janvier. Nous, on l'a fait en février. C'est une équipe qui est première de son championnat à un point de l'Union Berlin, qui a un match de retard et qui joue maintenant, et qui a une mi-temps pour battre Schalke et pour passer première. Donc voilà, c'est une équipe également qui a des échéances autant importantes que nous.
Bah oui, mais ils ont beaucoup plus de cohérence dans leur construction d'effectifs.
Frérot, tu préfères leur milieu, tu peux pas me dire favorable.
Parfois j'ai l'impression que l'herbe elle est plus verte ailleurs.
Non, moi,
un Bayern central Munich, hein, de l'autre côté, ce qu'ils disent en Allemagne, et dans l'Allemagne, ils diraient oui, là, c'est pas normal, le Bayern, on sort d'une défaite, l'Union Berlin, ils peuvent gagner aujourd'hui, on affronte l'Union Berlin, le Paris Saint-Germain, bah, récupère Mbappé. Donc voilà, c'est parfois on dirait que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc ben, non, crois, le Bayern Munich, ils ont également des situations où
écoute juste, c'est pas dire que le Bayern de Munich sont super forts. Moi j'ai passé le match contre le Bayern à me dire mais qu'est-ce qu'ils sont faibles. J'ai passé le match à me dire mais qu'est-ce qu'ils sont faibles. Néanmoins, si tu regardes et tu prends juste le temps de te poser et tu regardes objectivement les effectifs, les comparaisons d'effectifs, tu compares leur milieu avec notre milieu, ils sont à des années-lumière. Tu compares leur attaque avec notre attaque, ils sont pas si loin, voire... Voilà, on va pas aller plus loin. Si tu compares leur ligne arrière avec notre ligne arrière, ils sont très devant. Après, sur les ailes, on est bien, mais il faut qu'on ait nos deux titulaires, ils sont fragiles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'indépendamment des formes du moment, on est face à une équipe qui a beaucoup plus, mais beaucoup plus de certitude que nous. C'est tout ce que je suis en train de dire.
Bien sûr, on a de toute façon une pièce à jouer.
Est-ce que tonton Réco, vous vouliez ajouter un truc? Et bien sur ce, messieurs, ce fut un grand plaisir. Encore une fois, les petits pouces, ça coûte que de lâchez-le. Ça nous aide. Et on vous dit à bientôt. On a un live qui va être prévu, qui va venir. De toute façon, au prochain match, on aura un live direct. Sans doute, ce sera Tonton qui s'y collera. Tonton, le régulier des lives. Et on vous dit à tous à bientôt. Ciao tout le monde.
Ciao.